J'en ai traversé des tempêtes, j'en ai passé des nuits blanches, j'en ai vécu des trucs tellement durs. Et tu dis, bah, je suis là. Si c'est ton histoire de faire ça, si tu fais ta boîte pour les bonnes raisons, alors entoure-toi de gens qui vont t'aider à aller plus loin. Tu feras rien tout seul. Un entrepreneur qui veut réussir, il faut qu'il soit très bon en vente. Et donc, qu'il sache exprimer sa proposition de valeur de façon ultra simple, en réponse à un besoin. C'est ta capacité à percevoir, donc à sentir que ce que tu apportes, ça répond bien ou pas aux besoins de l'autre. Donc, il faut être très au clair sur ce que tu veux obtenir.
En connaissant la personne que tu as en face de toi, tu vas te concentrer sur son avantage, son intérêt. Pourquoi est-ce qu'elle doit t'écouter?
T'as 10 secondes pour te connecter. On n'achète qu'à des gens qui nous ressemblent. Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux.
Bonjour et bienvenue dans ce bel épisode du podcast Le Déclic. Encore une fois, bien accompagné, je suis avec Catherine Barba. Comment tu vas?
Ça va et toi?
En pleine forme, ça me fait super plaisir de t'avoir ici.
Moi aussi.
Il y a un parcours juste dingue à décortiquer, énormément de valeurs qui va être partagée. Je vais rapidement te présenter. Catherine Barba, véritable serial entrepreneur, fondatrice de Cash Store en 2004, site Cashback revendu en 2010, fondatrice de Malinea, cabinet de conseil en e-commerce vendu à Weepy en 2012, anciennement fondatrice de WinForum New York et Peps Lab. Business Angel, tu as investi dans des startups liées au commerce, à la fintech, à l'éducation, présidente de la French Tech New York de 2018 à 2020, représentant une communauté de plus de 300 startups French Tech, on en parlera à New York également, cofondatrice d'Envie, depuis 2020, une école dédiée aux indépendants. En plus, aujourd'hui même, il y a un événement particulier dont tu te réjouis au moment où on tourne cet épisode. Tu détiens plusieurs titres, comme Femme en or en 2011.
Oh là là, si on part dans les titres, on n'est pas couché.
Hein. Et ouais, Femme d'influence économique en 2014. On a mis que ces deux-là. On a juste mis et j'en passe, parce qu'il y en a de nombreux, effectivement. Membre du board de plusieurs entreprises, comme Renault notamment, et d'autres précédemment dans ton parcours. On parlera aussi de cet élément. Ancienne jury de Qui veut être mon associé, mariée depuis plus de 24 ans, maman d'une fille.
C'est ça mon plus grand exploit. Finalement.
J'allais le dire, c'est aussi une sacrée entreprise, cette aventure. Et j'ai envie de revenir sur tout ce parcours juste dingue que je viens d'énumérer. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir décortiquer. Et avant ça, j'ai envie de revenir sur les premiers pas, les premiers rêves. Ton enfance, à 10 ans, tu écris une rédaction dans laquelle tu dis vouloir diriger une société d'informatique.
C'est dingue.
Qu'est-ce que tu imagines exactement à cette époque en écrivant ces lignes?
Mais imagine, on est en 1983. Toi, t'es pas né. Et en 83, autant te dire que l'informatique, l'entrepreneuriat, ça n'existe pas.
Ouais.
Et moi, dans ma famille, il n'y a pas d'entrepreneur. Je me demande d'où ça vient. Tu vois, peut-être qu'en 83, il y avait eu, à la radio, j'avais entendu quelque chose sur Bill Gates, j'en sais rien. En tout cas, la maîtresse demande « qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?» Je l'ai mise sur LinkedIn, d'ailleurs.
D'accord.
La rédaction, c'est écrit, tu sais, une écriture qu'on n'a plus aujourd'hui. Et je dis… Je crois que je me disais, être son propre patron doit apporter beaucoup de satisfaction et générer beaucoup d'argent. Tu vois, tout de suite, là, à 10 ans, tu sais à qui t'as affaire. Et donc, je ne sais pas, ça me fascinait parce que c'était nouveau. J'ai toujours aimé les choses nouvelles.
Et à quel moment tu as le déclic et tu crées ta première entreprise, tu passes à l'action et tu sors du schéma traditionnel, on va dire?
En fait, j'ai assez peu été dans le schéma traditionnel. J'ai été diplômée d'une école de commerce à la fin des années 90. Par une chance, comme tout dans la vie, hein, c'est la chance des rencontres, je me retrouve en train de diriger le département Internet. Enfin, on ne dit pas Internet à ce moment-là, on dit multimédia, les autoroutes de l'information, et d'une très grosse entreprise de médias. Et je croise la route d'un grand entrepreneur que tu connais, Marc Simoncini, et c'est ça mon déclic, c'est que ça réveille l'entrepreneur qui était en moi, enfoui peut-être, et le fait de voir quelqu'un aux commandes de sa boîte, libre, décidé, forcément, ça t'inspire.
À ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, waouh, c'est possible en fait, je peux le faire moi aussi. Parce que beaucoup de gens voient aujourd'hui qu'entreprendre, c'est possible, c'est un peu même un phénomène de mode. Ils ont des besoins parce qu'ils n'osent pas forcément se lancer. Qu'est-ce qui fait que toi, en voyant ça, en constatant ça, puis en plus, il faut le dire, on est à une autre époque, ce n'est pas comme aujourd'hui.
C'est la fin des années 90.
Exactement.
C'est encore balbutiant.
Ce n'est pas la mode.
C'est pas tellement c'est possible que je me dis c'est évident.
Ok.
C'est évident, c'est comme ça que j'ai envie de travailler.
D'accord, c'est fait pour moi. Et qu'est-ce qui fait que tu ressens ce truc de c'est fait pour moi, c'est comme une évidence?
Je pense que ce qui anime les entrepreneurs, tu le sais, c'est un principe d'action. C'est l'action, tu te réalises dans l'action. Et donc, je me dis que c'est une bonne façon, et librement, plus librement quand on est sous contrainte d'un cadre, même si on n'est jamais, on est toujours, ce sont les tes patrons, quand tu es à ton compte, quand tu es entrepreneur, ce sont tes clients. On n'est jamais totalement libre. Mais cette liberté de pensée, de parole, d'action, ça me parle.
Et au début, quand tu te lances, comment ça se passe ? Tu trouves tout de suite tes premiers clients, tu as tout de suite une idée, tu passes directement à l'exécution. On le sait, c'est un peu un roller coaster, l'entrepreneuriat. Mmh. Comment ça se passe au départ ?
Ben, en fait, j'avais envie. Donc, en voyant ce grand entrepreneur, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. J'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de faire le saut et de créer ma boîte. Et je cherche, tu sais, on cherche tous des idées, je lis la presse, j'essaye. En fait, qu'est-ce que tu cherches ? Je cherchais à détecter un besoin. Mmh. Voilà, c'est toujours ça, hein, une entreprise qui marche. C'est une boîte qui répond mieux que les autres aux besoins de ses clients. Et je me rappelle, j'étais sur un banc, j'étais enceinte, j'étais sur un banc et je vois une affiche, je ne sais plus, qui dit « pour acheter, il vaut mieux gagner d'abord, acheter, gagner, cashback ». Je ne sais pas, j'ai le mot « cashback » qui me vient en tête. Et je me dis « waouh, j'aimerais bien lancer une boîte de cashback, en fait ». J'avais déjà vu un peu ça aux États-Unis. Tu vois, j'étais en train de regarder cette affiche et c'est le mot « cashback » qui est venu. Et je me suis dit « tiens, je vais aller creuser l'idée ». Je vais creuser l'idée pour encourager les gens à acheter en ligne, à une époque où ça n'existait pas, hein, l'achat en ligne. J'adore, moi j'ai l'impression de venir du fin fond des temps. Mais, et je me suis dit « si jamais… » J'adorais déjà acheter en ligne le peu qui était possible. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un moyen pour encourager plein de gens à profiter de cette nouveauté. Mmh. Et pour encourager les gens à acheter en ligne, quoi de mieux que de leur proposer de l'argent ? Mmh. C'est une bonne carotte, ça. Et donc, j'ai creusé le cashback, j'ai fait plein de recherches. Tu vois, une fois que tu as l'espèce de lumière qui t'arrive dessus, après, c'est moins reluisant. Il faut aller dans la cave et puis il faut aller faire des recherches, une veille marché. Et voilà, je me suis dit, il y a une place à prendre. Donc, c'est comme ça que j'ai lancé un site de cashback.
Tu lances ça toute seule ou tu as un associé, des associés ?
J'ai 3 associés qui savent faire ce que je ne sais pas faire, c'est-à-dire la finance, en tout cas qui s'occupent du pilotage, de la finance, des chiffres, la tech et puis tout le marketing d'acquisition. Voilà, donc moi, je ne sais pas trop à quoi je servais, d'ailleurs. Je faisais la représentation, mais en fait, je faisais un peu tout, mais on a toujours besoin d'experts. Donc oui, j'ai 3 associés qui ne sont, sont pas opérationnels, en fait, qui me donnent des coups de main en plus de leur boulot.
Ah ouais, d'accord, donc c'est à côté. Donc vous lancez ça tous les 4, dans une époque, une période où Internet, c'est assez balbutiement.
Il y a peu de choses comme ça. C'est la genèse, c'est le tout début.
Et comment tu vas convaincre, d'une part, des boîtes de vous faire confiance pour pouvoir utiliser le service de cashback.
Oui.
Et d'autre part, bah aussi les consommateurs, parce que c'est quelque chose de complètement nouveau. Mmh. Aujourd'hui, on parle de ça, on n'arrive limite pas à se projeter dans cette époque, si j'ose dire. Mais c'est limite un travail de visionnaire, de réussir à convaincre et de dire « j'ai une conviction, Internet va révolutionner notre façon de consommer, notre façon de vivre. Je crée un produit pour redistribuer du pouvoir d'achat aux gens qui l'utilisent.
» Exactement. Alors, comment on fait ? D'abord, moi, j'avais très envie de le faire. Tu sais, c'est ça qui fait que c'est ton moteur dans la vie. Mmh. T'as très envie de quelque chose. T'es pas sûr que ça va marcher, mais t'as envie de frotter au réel pour voir où ça peut te mener. Moi, j'avais très envie de créer ma boîte, j'avais très envie de faire ça sur l'e-commerce. Et donc, avec ce petit moteur intérieur, ça te donne des ailes, en fait. Donc, je vais voir, je regarde la liste des sites e-commerce qui existaient. Bon, à l'époque, il n'y en avait pas non plus des tonnes. Hein. Et je vais juste, je les contacte, je trouve leurs coordonnées et je leur dis, j'ai quelque chose à vous proposer. L'affiliation existait quand même déjà un peu, tu vois, mais c'était le tout début. Donc, c'était ni plus ni moins qu'un principe d'affiliation. J'allais voir Fnac.com, Aquarelle.com, À la page, enfin, en plus, plein de noms qui n'existent plus, en disant, moi, je vous propose de me rétribuer pour les ventes que je vous génère, mais moi, au lieu de garder cette commission, je la partage avec la personne qui a fait l'achat. Donc, comment faire pour aller convaincre les premiers clients ? C'est juste, il faut y aller, quoi. Il faut décrocher son téléphone, il faut envoyer des mails. Et ça, je l'ai fait. Et puis après, quand on a 2-3 qui sont un peu influents, tu dis, oui, mais machin l'a fait, et l'autre aussi. Ah bon, alors peut-être que j'essaye. Bon, ils n'avaient rien à perdre, à vrai dire, hein, c'est du ROI. Et puis pour les clients, il n'y avait pas de réseaux sociaux, rien du tout. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit, il faut que je devienne la reine des RP. Il faut que j'aille contacter les médias, les journalistes. Et donc, je me suis improvisée, attachée de presse de ma boîte. J'ai rédigé des communiqués de presse. Ça, c'est un atout. J'écris bien, en fait. J'écris bien, enfin, ça va. J'ai fait des études littéraires, tu vois. Donc, ça m'a toujours servi dans mon boulot. Et donc, j'écris des communiqués, des dossiers de presse. J'envoie, je relance, je lâche pas le morceau, quoi. Et puis, je me retrouve un jour, émission sur France 2, Télématin. Et là, ça, tu touches beaucoup d'audience.
On est en quelle année, là ?
Eh ben, on est au début des années 2000.
Début des années 2000. Donc, c'est vraiment la genèse d'Internet, comme tu l'évoquais tout à l'heure.
Ouais.
Y a des moments où, face peut-être à la non-compréhension de grands décideurs ou en tout cas d'un marché qui ne veut pas encore s'ouvrir à ça, tu te dis, je ne suis pas sur la bonne voie, ou tu as une telle conviction par rapport à Internet, par rapport à la tech, par rapport à tout ça, qu'à aucun moment, tu te dis que tu vas lâcher.
En fait, je m'amuse. Je trouve ça très réjouissant de faire quelque chose de nouveau.
Ouais.
Sur lequel il me semble que ça vaut la peine de se battre pour défricher quelque chose, pour explorer un marché. Puis je me suis toujours dit, si ça ne marche pas, il sera toujours temps de faire autre chose, de postuler dans une entreprise. C'est que du boulot quand même.
C'est intéressant ça, c'est que du boulot quand même. Donc finalement, tu relativises dans chaque élément que tu mets en place à chaque fois, c'est cette énergie, ce côté, on va dire, positivisme, pétillant, joie, qu'on ressent que tu as en toi, cette énergie-là que je ressens même.
C'est un cadeau.
c'est un cadeau. Est-ce que tu l'as toujours eu ? Il y a un déclencheur à ça ?
Oui, je crois. Hein. Il faut demander à mes parents ou à mon entourage, mais je pense que c'est un truc que j'ai reçu en partage, paf, de l'énergie en barre. Donc forcément, toi, je ne sais pas quel est ton talent ou ton cadeau que tu as reçu. D'ailleurs, je peux te demander si c'est...
Bien sûr. on va passer dans un mode d'introspection, parce que moi aussi, je me pose parfois la question. Mais c'est aussi, je pense, cette envie, cette énergie de contribuer, de partager. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui,
mais
d'ailleurs,
oui.
Et que je me nourris de ces échanges
Exactement.
Comme celui-ci. Ouais.
Et moi, j'ai cette énergie, je ne sais pas, je l'ai reçue, je l'ai toujours eue. Peut-être quand j'avais 15 ans, j'ai été malade, fait un séjour à l'hôpital et j'ai survécu. Et peut-être que dès lors, je me dis que chaque journée est un cadeau. Chaque journée est vraiment une vie entière, en fait. Qu'est-ce que je vais faire de cette vitalité qui m'est donnée ? Tu vois, j'ai rien à perdre en fait. Et donc je rends grâce, bien sûr, et ça me donne de la force. Donc je l'ai toujours eu, je pense, oui. Et mon entourage s'en plaint parfois, évidemment.
C'est vrai.
Ne prends pas de vitamines, Catherine, c'est bon.
Il y a un sujet que je voulais évoquer par la suite, mais tu me permets d'en parler. C'est justement que tu as une sorte de mantra. C'est un équilibre entre quatre piliers, famille, travail, don aux autres et vie intérieure.
Ouais.
Qu'est-ce que ça signifie pour toi et comment tu cultives cet équilibre au quotidien ? Parce que...
Très difficile. C'est mon petit tabouret, en fait. C'est mon petit tabouret de vie, tu sais. Qu'est-ce qui t'apporte cette stabilité dont on a besoin ?
Ouais.
Parce que c'est pas vrai qu'être entrepreneur, c'est aimer les risques à tout prix et l'instabilité et tout. Non, on aspire tous quand même, c'est la pyramide de Maslow, hein, à un socle de sécurité. Et moi, cette sécurité, elle m'est apportée par les piliers de ma vie, la famille. Mais comme toi, j'imagine, comme beaucoup, les gens qui t'envoient des barres d'amour et qui t'aiment quoi que tu fasses, en fait, et qui t'entourent et qui t'épaulent. Après, il y a le boulot qui prend beaucoup de place, moi, dans ma vie, hein, mais qui est aussi une source de joie parce que j'apprends. Je suis tout le temps en train d'explorer, de découvrir. Ça a été le fil conducteur de ma vie, ça, hein, l'innovation, apprendre, regarder des nouveaux marchés. Le give back, c'est sûr. Enfin, je ne sais pas comment tu peux faire une vie réussie sans rendre ce que tu reçois. Tu vois ? Est-ce que c'est du temps que tu donnes aux autres, de l'argent si tu peux, mettre les gens en relation Ouais, on sert à ça quand même. Et puis ma vie intérieure, ça c'est ma petite spéléologie. Tu vois, j'en parle et c'est pas très courant, mais ça c'est important dans ma vie. Donc c'est ma foi, ça me tient debout. C'est ma foi en Dieu qui fait que je sais qu'il y a l'immanence dans laquelle on est plongé, mais il y a quand même quelque chose de plus grand que nous et qu'on appelle comme on veut d'ailleurs. Hein, mais moi qui me donne de la joie aussi.
Comment tu cultives cette vie intérieure, justement ? Parce qu'on est dans un monde où l'attention, c'est quelque chose de précieux, qu'on chasse à chaque fois. On a de la peine à être dans l'instant présent, on a de la peine à faire de l'introspection, on a de la peine à être bien seul avec soi-même. Je ressens là ici dans ton propos que c'est vraiment une des clés de ta réussite et de ton énergie.
Ouais.
C'est un des piliers de ton tabouret que tu évoques de vie.
Ouais.
Comment on fait ?
Déjà, pardon, tu me demandais tout à l'heure comment j'arrive à garder l'équilibre. Ouais. Bon, bah, c'est dur. J'ai pas de méthode. Hein. J'essaie d'y penser. Et quand je sens qu'il y a un pied qui prend trop de place sur les autres, de toute façon, tu sens bien que tu satisfais pas ton entourage ni toi-même. Donc, j'essaie d'être attentive. Je le visualise, en fait, ce tabouret, et j'essaie de voir à quel point il est en équilibre. Mais j'y arrive pas toujours. Hein. Et en fait, comment je nourris ma vie intérieure, mais c'est par la prière. Moi, j'ai une discipline, mais c'est même pas une discipline, c'est que ça fait partie de mes rituels de vie. Moi, le matin, je sais pas ce que tu fais, toi, quand t'ouvres un œil, quand ton réveil a sonné, moi, je lis pas la presse. Ça me déprime. Je lis l'évangile du jour. Pardon, ils ne s'attendaient pas à ce qu'on parle de tout ça. J'espère que ça ne va pas faire fuir tes auditeurs. Mais moi, je lis l'évangile du jour. Je lis un miracle chaque jour. C'est une petite newsletter qui est super. S'il te donne, pareil, de l'énergie en barre. Une minute avec Marie. Donc, j'ai toutes mes petites bondieuseries du matin, tu vois. Okay. Sympa. Petite prière. Et puis après, dans la journée aussi, tu vois, j'adore attendre le bus. J'adore être dans un taxi. J'adore attendre, en fait, parce qu'à chaque moment d'attente, ben, je me reconnecte. Je fais une petite prière pour partager ma journée.
Okay.
Adieu, c'est marrant. Hein. Donc, ça, ce sont des moments... qui font que dans le tumulte de nos jours, à un moment, je fais cette plongée au fond de moi et il se passe quelque chose de très, très apaisant, très calme, très ressourçant. Et donc, j'ai besoin d'y aller, tu vois. Et c'est là aussi que je vais puiser mon énergie.
C'est assez complémentaire, justement, avec cette énergie de feu débordante où il y a un moment donné, tu fais une pause, tu redescends.
Exactement.
Et puis après, tu peux repartir de plus.
C'est ça. Et ça fait vraiment... partie de ma vie. Et je ne sais pas les uns les autres comment vous faites pour vous ressourcer, surtout face aux désastres du monde. Quoi. Mais moi, ce qui me ressource, c'est la prière. C'est aussi c'est la beauté du monde aussi. J'aime bien aller en Corse et voir la mer, le maquis, la montagne. Je ne me lasse pas de cette beauté. Et ça aussi, la confrontation à la beauté, ça te remplit de force.
Donc, je reviens sur l'aventure Cash Store. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu te dis là, on est vraiment en train de participer à un grand changement ?
En fait, je me dis surtout là, ça se passe pas comme sur mon business plan écrit sur Excel, quoi.
Okay.
Tu vois, là, j'ai des gouttes de sueur, quoi, parce qu'au bout d'un moment, une fois passé l'enthousiasme, j'ai contacté plein de commerçants, je suis passée à la télé, je suis super contente. Il y a un moment, tu dis bon, et alors le chiffre d'affaires, il en est où exactement, quoi. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, que tu vois, avant même de me sentir participer à quelque chose, je vois que au quotidien, bah, mon business model, il est pas bon. Il n'est pas bon, c'est-à-dire que quand tu gagnes 20% d'une vente, le panier moyen n'était pas très élevé, donc tu n'as que 20% d'un petit panier moyen et qu'en plus, tu ne prends que 50% parce que l'autre, tu le files à l'acheteur, tu réalises que tu fais un business de volume. Et que le business de volume, il n'y a pas de secret, il ne vient pas tout seul. Donc, il n'y avait pas encore vraiment de levée de fonds à l'époque.
Ouais.
Mais rétrospectivement, c'est ça que j'aurais dû faire. Aller chercher des fonds pour accélérer. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas trop que c'était possible. Tu vois, donc, en fait, plutôt que de voir la big picture, je suis vraiment le nez collé à mon quotidien et je vois que bah, ça ne décolle pas. Quoi.
Donc, cette lucidité justement que tu as à ce moment-là et que tu te dis, bon, il faut que j'ajuste des choses, il faut que je fasse quelque chose. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les actions, les éléments que tu mets en place pour qu'ensuite... tu puisses continuer à avancer jusqu'à revendre cette entreprise.
C'est ça. En fait, déjà, je me dis, OK, les gens qui m'ont fait confiance, qui ont quitté des grosses boîtes, parce qu'on est déjà quand même une petite dizaine, tu vois, et qui ont quitté des belles boîtes pour venir, pour moi, je me dis, bon, déjà, c'est à eux que je pense en premier. Je me dis, il faut que je leur trouve un job si demain, ça foire. Je suis déjà en train de me dire, je vais contacter telle personne pour... est-ce que tu peux réembaucher telle personne? Parce qu'en plus, c'était des gens tous de... très grande qualité.
Ouais.
Donc, je pense d'abord à eux. Et ensuite, ça me donne, je ne sais pas pour toi, mais moi, la difficulté me donne de l'impulsion. Je suis peut-être même un peu maso, je la cherche peut-être un peu parce que je ne suis jamais aussi bonne que quand c'est difficile.
Quand tu es face au mur.
Oui, ou alors quand c'est difficile, quand il y a une problématique, tu vois, une grosse boîte qui est en pleine transformation, elle a l'air de tomber, on en parlera peut-être après, Renault, qui, tu vois, j'aime bien, c'est comme des petites énigmes en fait. Donc j'aime bien la difficulté. Donc là, je vois que bah, ma courbe de chiffre d'affaires, elle n'est pas aussi flamboyante que ça avait l'air. Les charges, elles sont plus importantes que je pensais. Donc, qu'est-ce que je fais? Comme tout entrepreneur aguerri, je pense, c'est d'abord, tu contrains tes coûts, tu coupes tout ce que tu peux couper, tu fais vraiment attention. Et après, je me dis, je vais faire un plan d'acquisition de clients. Je vais, l'argent que j'ai en cash, je vais l'investir pour accélérer ma croissance. Et donc, je fais des campagnes au ROI en ligne. C'est le tout début des réseaux sociaux que je commence à utiliser. Je mets le paquet sur le SEO. Je travaille l'acquisition. Enfin, tu vois, je fais tout un plan piloté au cordeau. Et il y a un moment, il y a un canal qui marche mieux que les autres et qui fait que les clients entrent, que ça couvre les charges et que ça commence à faire une... On a 500 000 utilisateurs.
Ah ouais, en quelle année ?
Ben ça, c'est juste avant de le vendre.
D'accord.
Donc, c'est en 6 ans.
6 ans, ouais. Belle croissance. Et à ce moment-là, à quel moment tu pars à New York ?
Bien après. Je pars après donc avoir... Avoir vendu cette activité, je continue à développer une activité, comme tu disais en introduction, où je commençais à fabriquer des sites e-commerce, tu vois. Je fabriquais des sites. Enfin, d'abord, je commençais à faire de la... J'avais une activité de conseil pour optimiser la croissance d'un site e-commerce. Mmh. Et comment ça m'est venu, ça, c'est parce que...
Malinéa, donc.
Oui, Malinéa, parce qu'en fait, quand dans mes nuits d'angoisse, les nuits blanches, là, tu vois, comme on a tous à dire, mais comment je vais faire pour que ce... business décolle, quoi. Et je me dis, mais mon modèle économique n'est pas bon, mais c'est aussi parce que j'envoie plein de trafic sur des sites e-commerce, mais qui ne convertissent pas en vente. Moi, je me rémunère que sur les ventes, mais il n'y a pas de vente. Mais parce que leur taux de conversion est très mauvais, c'est 1%. Donc, lumière dans la nuit d'angoisse, je vais créer une activité qui améliore la conversion des sites e-commerce. Donc, je me creuse les méninges pour trouver une méthodologie, pour faire des audits de sites, travailler à regarder comment on l'a... Et je vends à un premier client cette activité. Et il se trouve que cette mission de conseil d'amélioration d'un site e-commerce, elle marche. Et donc, il me recommande à quelqu'un d'autre, qui me recommande à quelqu'un d'autre. Et ça, ça devient une grosse activité. Bon, je te la fais courte, hein, mais ça se passe en plusieurs années.
Bien sûr.
Et à l'issue de ça, ben, on a un beau chiffre d'affaires, de beaux clients. Et c'est ça qui est vendu à VP. Et c'est seulement après que je pars aux États-Unis.
Et comment justement tu passes de « j'identifie une problématique, je vais moi-même creuser les méninges, comme tu l'as cité, pour résoudre cette problématique », donc passer peut-être de 1% à 3, 4, 5% de conversion sur un site e-commerce, qui est déjà des très beaux…
5%, je crois que je n'ai jamais fait.
Ouais, c'est des très beaux taux de conversion que j'évoque ici.
Je pense que déjà passer à 3, déjà, c'est déjà un bel exploit.
On est d'accord. Et surtout pour l'époque. Et surtout pour l'époque en plus.
Oui, on pédalait un peu pour être en ligne. Ça, je veux dire, c'était pas, t'avais pas du X comme aujourd'hui, de templates déjà formatés qui te permettent de prévoir une navigation fluide. C'était quand même un peu, on sortait du Minitel. Hein.
C'est quoi les challenges, les obstacles auxquels vous faites face à ce moment-là? Parce que c'est souvent dans ces moments-là qu'on apprend le plus en tant qu'entrepreneur. C'est pas quand tout va bien et qu'on est sur un enveloppe tranquille. C'est quand justement tu vas redéfinir les règles d'un marché, c'est ce que vous avez fait, vous avez contribué à le faire. C'est quoi les grands obstacles, les grands enjeux qui t'apportent les plus grandes leçons ?
Mais en fait, déjà, c'est t'entourer de bonnes personnes. Ouais. Ça, c'était la plus grosse difficulté que j'ai eue. Tu vois, surtout sur un marché qui n'existe pas, que tu es en train de construire plus ou moins. C'est pas un mur avec des tiroirs et tu vas chercher les bonnes compétences dedans. Donc, à quoi tu sens les gens. En fait, c'est pas forcément des gens qui ont une compétence, mais des gens qui ont envie d'apprendre, qui sont bien structurés, qui savent écrire. Donc, c'est la chance aussi. Hein. Quelqu'un me disait ce week-end, pour réussir en entrepreneur, il faut du pot et du pif. Ben, c'est ça. Moi, j'ai peut-être un peu de pif sur des gens et puis beaucoup de chance. Donc, le premier enjeu, c'est d'avoir des bonnes personnes que t'embarques à l'énergie et à l'envie de construire des choses ensemble pour résoudre le problème des sites e-commerce. C'est bien de se dire « je résous un problème
».
Et pour y arriver, il n'y a pas de secret. Plus tu fais quelque chose, plus tu le fais bien. Moi, je suis convaincue que tu peux devenir un expert dans n'importe quel sujet en 6 mois, dès lors que tu as une rigueur germanique et que tu regardes tout ce qui se passe, tu fais une vraie veille, tu vas interroger les gens et toi-même, tu y travailles chaque jour. Donc moi, je suis devenue experte de la conversion en site e-commerce à force de le faire.
Ouais.
Tu vois, et c'était très réjouissant, j'aimais bien le faire. Tu vois, tu regardes un site, tu te dis si le bouton était là plutôt que là, est-ce que ça marcherait mieux? Et la couleur, donc tu fais de l'A-B testing au kilomètre. J'aimais bien ça, j'aime bien ce côté d'exploration en fait.
C'est quoi qui t'intrigue dans ce côté? C'est la compréhension du cerveau humain? C'est la data? C'est le fait d'avoir raison? C'est quoi?
Moi, je suis orientée résultat, okay. En fait. Moi, vraiment, j'ai envie que ça donne un résultat. Donc, je me dis, si on est à 1% de taux de conversion, je vais explorer toutes les options pour voir. Je me donne un certain temps aussi. Hein. Mmh. Ça, c'est important quand on entreprend, à un moment donné, de se dire, passer cette date, je ne vais pas confondre... la résilience et l'acharnement. Donc je teste tout, mais j'aime bien cette idée de résoudre. C'est très mathématique, en fait. Et en étant convaincue qu'il y a forcément une solution. Donc, comment est-ce que je peux améliorer le taux de conversion? Et quand il arrive, tu vois que ça a un impact sur la satisfaction de ton client, sur ses chiffres, sur les tiens. C'est bon, ça.
Complètement. J'ai envie de rebondir sur un élément de ton parcours que je détecte là en échangeant. Tu m'as parlé tout à l'heure de stratégie PR pour convaincre des médias et être présente sur certains médias. Tu me parles ici de recruter des talents. Tu me parlais aussi du fait que sur Cashstore, vous aviez recruté des super talents, etc. pour l'époque et quitté des boîtes pour vous rejoindre. Ça dénote que tu as aussi ce talent, ce pouvoir de réussir à réunir, de fédérer, de développer un réseau. C'est un vrai super pouvoir en tant qu'entrepreneur. Mmh. C'est pas donné à tout le monde. C'est lié, j'imagine aussi, à ton énergie, ton pep. C'est lié aussi au fait que tu as des projets de mission avec une vraie vision, je pense. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as identifié au fur et à mesure de ton parcours qui pourrait aider nos auditeurs qui ont conscience de l'importance de réussir à créer un réseau ou recruter des talents ou partager et qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre.
Ouais, c'est difficile. Hein. Je crois que c'est le plus gros enjeu, en fait. Ouais. Parce qu'on ne fait rien seul. Toutes les choses bien que tu as faites, toi, c'est ton équipe, c'est les gens qui t'entourent. Et donc, moi, je ne sais pas si c'est un super pouvoir, mais j'ai appris une chose, c'est si tu veux recruter les meilleurs, t'entourer des meilleurs, il faut être visible. Il faut être visible et partager des choses de conviction où les gens se disent « Oh tiens, ça me parle, tu vois ». Donc, pour être visible, il faut creuser son sillon. Et moi, j'ai beaucoup utilisé LinkedIn, en fait, pour ça. Hein. Ça m'a beaucoup servi, LinkedIn. Tu vois, j'aime bien dire, c'est quoi les trois mots que tu aimerais qu'on associe à ton nom? Quand quelqu'un pense à toi, d'ailleurs, j'aimerais bien te demander, tu vois, quels seraient les trois mots que tu aurais envie que des gens qui ne te connaissent pas associent à ton nom quand on parle de toi?
Pour ma part?
Oui.
Confiance, performance, transparence.
Ouais, c'est chouette, ça. C'est des beaux mots. Et d'un point de vue d'expertise, tu vois, d'expertise métier, moi, je pensais, tu vois, par exemple, énergie, innovation et, je sais pas, diversité, par exemple. Enfin, tu choisis tes mots et ensuite, tu creuses tout ce que tu publies, tout ce dont tu parles, tout ce que tu partages, ça vient parler de ça et ça montre ta passion pour le sujet, ta légitimité. Hein. Et donc, plus tu es visible, plus tu vas attirer des gens qui te ressemblent, en fait. Ouais. Tu vois, donc, je crois que ce qui est puis après, il faut toujours être en train de... Moi, toute personne que je croise, je me dis peut-être qu'on va travailler ensemble demain.
OK.
Tu vois?
Cette notion, justement, alors, certes, je croise quelqu'un, on garde le contact, peut-être qu'on va travailler ensemble demain. Déjà, ce n'est pas anodin, c'est bien de l'évoquer. Mais ce côté visibilité, aujourd'hui, encore une fois, c'est à la mode le personal branding, tout le monde en parle, on est sur LinkedIn, on est sur Instagram, etc. Tu dis que tu l'as fait très tôt.
Ouais.
Déjà, à quel moment tu commences à le faire, sachant que...
Je ne me rappelle plus.
J'imagine à un moment donné...
C'était il y a si longtemps.
Voilà, c'était pas forcément... à la mode, entre guillemets, si je n'aime pas utiliser ce terme, mais ça donne une image.
Ouais.
Mais surtout, quel est l'élément, le déclic qui fait que tu te dis « Ok, je dois capitaliser sur ça parce que j'en connais la valeur, j'en perçois la valeur, même si je fais partie des premiers qui vraiment le perçoivent. »
Mais en fait, c'est surtout que je n'ai pas le choix. J'ai pas d'autre choix, si tu veux. J'ai pas d'argent pour payer des cabinets de recrutement, j'ai pas d'argent pour payer des campagnes de pub. Donc, si j'ai envie d'attirer les meilleurs, il faut être ingénieux. J'aime bien cette idée de nécessité. Ouais. Tu sais, quand on est trop repu, quand on est, on est beaucoup moins malin. Et c'est un vrai sujet d'ailleurs quand t'es parent d'enfant. Moi, je viens d'un milieu modeste, j'ai tout donné pour réussir. Et moi, qui ai gagné un peu d'argent, et ma fille qui est dans ce milieu-là, je me dis, oh, si ça se trouve, je vais faire une grosse feignasse ou quelqu'un qui n'a pas faim. Comment faire en sorte que tes enfants aient faim? C'est pas le cas. Hein.
Comment tu fais pour maintenir justement cette énergie, cette envie?
Je suis pas exemplaire sur le sujet, mais tu sèmes tes graines, tu partages tes valeurs, tu dis ce qui est important pour toi, puis il y a l'exemplarité. Après, la chance fera la différence. Ouais. Mais donc, j'aime bien l'idée de te dire que tu fais bien quelque chose par nécessité. Moi, il y avait une nécessité à être visible, à contacter des journalistes, à leur parler de ce que je faisais, parce que j'avais pas d'autre moyen gratuit d'être visible, tu vois. Et donc, j'ai appris qu'il fallait toujours explorer d'abord les voies organique et gratuite avant d'aller au payant. Et puis, oser des choses, tu vois, écrire à quelqu'un sur des grosses chaînes de télé de l'époque alors que t'es nobody, il faut oser parce que de toute façon, si tu le fais pas, personne ne le fera pour toi.
L'audace.
Ouais, l'audace par nécessité.
Ouais. Voilà. J'ai envie de te poser une question qui permettra de casser potentiellement des a priori ou des préjugés. Il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas forcément entreprendre, qui ont peur d'entreprendre, qui n'osent pas également communiquer leurs objectifs. Et moi, je l'ai constaté, je l'ai vu même avec entrepreneurs.com, et de plus en plus, ça se fait de moins en moins. C'est-à-dire qu'au début, on avait peut-être 5% d'entrepreneurs femmes au sein d'entrepreneurs.com. Aujourd'hui, on monte progressivement jusqu'à plus de 40%
Bravo.
Sur certains de nos programmes, et c'est génial.
Mais c'est super.
Mais c'est grâce à des personnes comme toi qui justement prennent la parole, qui véhiculent un message.
Sûrement.
Est-ce que dans ton parcours, le fait d'être une femme a été parfois un obstacle ou challengeant et serait hyper intéressant d'avoir ton feedback là-dessus pour voir comment tu y as fait face potentiellement ou si ça n'a pas été le cas, rassurer celles et ceux qui n'osent pas potentiellement de le faire.
Ouais, je dois être un peu un garçon à l'intérieur en fait, moi. je me suis pas posé la question. Tu vois, je me suis
jamais. C'est peut-être ça le secret.
Ouais, je me suis pas demandé. Je me sentais entrepreneur plus que femme, tu vois. Je me sentais exploratrice plus que. Enfin, c'était. Je me suis jamais définie par mon genre. Il y avait pas beaucoup de femmes autour de moi, mais je me suis jamais dit oh, c'est ennuyeux. J'aimerais qu'il y en ait plus. En fait, je traçais mon chemin et j'essayais de. Tu vois, j'ai pas. En revanche, au fil du temps, je me suis rendu compte que pour d'autres, c'était un sujet, et je me suis rendu compte de ma responsabilité, peut-être. Que tu évoquais, de partager ma confiance. En fait, c'est pas tellement que j'ai plus confiance que d'autres, mais j'y vais même si j'ai peur. Tu vois, il faut pas attendre d'avoir une très grosse confiance pour passer à l'action, parce que tu l'auras jamais vraiment. Et puis en plus, la confiance, c'est pas un stock, c'est un flux. Donc il y a des moments de ta vie où tu en as beaucoup, puis d'autres, tu as ton réservoir à zéro. Mais c'est normal, ça fait vraiment partie du jeu. Donc, je me suis dit, il faut que je transmette ma capacité à faire. En fait, c'est le combo parfait, c'est ta motivation et ta capacité d'action. Tu vois, c'est pas j'ai peur du regard des gens ou j'ai peur d'échouer. Moi, j'aime pas, toi non plus, j'imagine, on n'aime pas l'échec. Mais ça fait tellement partie du jeu, quoi.
Tu dis j'y vais même si j'ai peur.
Ouais.
C'est quoi l'élément déclencheur qui fait que tu ne deviens pas, comment dirais-je, le pantin de tes peurs. Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup de gens sont paralysés par la peur du regard des autres, la peur de réussir même, la peur de l'échec également, tu l'as évoqué. Comment on fait pour se libérer de cette charge?
Je crois que tout passe par les autres. C'est ton entourage qui fait toute la différence. Alors déjà, moi, j'ai le big boss qui est avec moi. C'est pas mal, hein, comme filet de sécurité. Forcément, je me dis, j'ai rien à perdre. J'ai un ami super. Donc, et après, il y a aussi mon entourage de cœur, tu vois. Mes parents, les amis, les gens qui t'aiment, même si tu foires. Donc, finalement, c'est ça qui compte. Hein. C'est pas grave. Et puis après, j'ai quand même un entourage professionnel. Et ça, c'est très important. J'ai des mentors, des guides, tu vois. Je sais pas si on peut réussir une aventure ambitieuse d'entrepreneurs sans avoir de guides, de gens que tu consultes régulièrement et qui t'évitent les faux pas, qui te font gagner du temps et puis qui te regardent avec confiance.
Ouais,
et ça nourrit la tienne. Hein. tu te sens capable de faire, tu ne sais pas trop d'où ça te sort, mais quand quelqu'un qui a réussi te regarde avec confiance, tu te sens que tu es invincible.
Tout à fait. En 2015, donc, tu pars à New York.
Oui.
Qu'est-ce qui fait que tu prends cette décision et tu décides de quitter la France ?
Alors, c'est j'ai toujours rêvé de vivre à New York. Tu
D'accord.
Vois. J'avais fait un stage quand j'étais étudiante pendant plusieurs mois et je m'étais dit, oh, un jour, j'irai vivre à New York. Donc, j'avais toujours ce petit rêve de New York. Et puis là, ben, 2015, c'est la fin de VP, parce que cette boîte donc, qui faisait de la conversion de site e-commerce, qui fabriquait des sites, avait été cédée à ce géant de l'e-commerce. Mmh. C'est la fin de cette aventure, après la cession. Mon mari aussi, qui est entrepreneur, avait cédé ses parts dans sa boîte. Et donc, on se dit, ben, et on a une fille de 10 ans, donc on dit, c'est le moment d'y aller, quoi. Faisons quelque chose d'un peu audacieux. Et forcément, moi, je souffle l'idée de New York. Et j'insiste même. Donc, c'est réaliser un rêve et puis c'est le bon moment.
Donc, tu arrives là-bas. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là?
Déjà, avant d'y aller, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Parce que la vie est très, très chère à New York quand même. Hein. Je crois qu'en moyenne, tu vis 4 ans à Paris pour 1 an à New York. Hein. C'est quand même le rapport, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à cette époque, c'est un rapport de 1 à 4. Et donc, je me dis, avant de partir, je vais aller explorer tout ce qui se fait d'innovant dans le retail, sur la transformation numérique des entreprises. J'ai dans l'idée d'aller interviewer des grands patrons et de collecter du savoir. Je me dis, c'est l'occasion ou jamais, quoi. Et donc, avant de partir, je suis toujours, avant un projet, je réfléchis toujours à la manière de le financer. Tu vois, quand je fais un événement, par exemple, je réfléchis toujours d'abord au sponsor avant de réfléchir au contenu. Là, c'est pareil. Projet New York, je me dis, comment est-ce que je peux, avant même d'y être, gagner de l'argent? Et donc, je vais voir 3 entreprises et je leur dis, je vais être votre tête chercheuse à New York sur tout ce qui est innovation retail. Je vous fais tous les mois des vidéos pour vous présenter des concepts qui sont innovants, dont vous pouvez vous inspirer. Je vous fais un petit rapport, etc. Donc, et donc, j'ai 3 clients. Donc, je pars à New York et pendant un an, j'ai ces clients-là. Hmm. Donc, tu vois, donc je pars avec quand même un filet de sécurité.
Ouais, tu prépares déjà ton départ. Ouais.
Et après, quand j'arrive sur place, évidemment, tu as toujours un champ des possibles tellement plus grand que ce que tu imaginais qui s'offre à toi.
Ouais.
Et c'est là que je vois aussi qu'il y a une place à prendre sur des événements pour la diversité, pour les femmes. Il y a plein d'événements qui font la promotion des femmes, mais en vertical, les femmes dans la finance, les femmes dans la pub. Mais il n'y a pas un truc transverse et qui est même au-delà des femmes, qui est sur le thème de la diversité, qui n'était pas encore très préempté à l'époque. Donc, je te parle de ça, on est en 2015. Enfin, on est plutôt sur des verticales très les femmes pour les femmes avec les femmes. Et je me dis, moi, j'ai envie de faire un truc horizontal de diversité et qui mélange un peu tous les secteurs. Je regarde et avec Karine, qui est aujourd'hui une de mes associées dans Envie, eh ben, on a lancé pendant 5 ans un gros événement où il y avait tous les ans 1000 personnes dans New York avec des sponsors et on faisait cette promotion. Donc, c'est devenu, en plus de mon lab sur la transformation du retail, c'est devenu mon deuxième métier à New York.
Comment on passe de « j'arrive dans un nouveau pays, dans un nouveau continent, tu connais peut-être quelques personnes, mais pas beaucoup de monde
ouais. »
et très rapidement, donc, tu crées cet événement pendant 5 ans où tu réunis des centaines, puis un millier de personnes derrière. Là, quand tu le racontes, ça paraît simple dit comme ça, mais on sait tous les deux qu'il y a eu certainement des hauts, des bas, des challenges.
Ah, mais tout le temps, mais beaucoup de bas, beaucoup plus de bas que de hauts. Hein.
Et comment tu fais? Comment tu gères ça? C'est quoi les étapes?
En fait, c'est comme pour tout business, en fait. Déjà, tu commences par regarder s'il y a un besoin. Et pour le savoir, il faut demander. Donc, est-ce qu'il y a un besoin? Et est-ce que je suis capable, moi, de répondre à ce besoin? Qu'est-ce qui fait que dans mon histoire, dans mes réalisations, dans mes échecs, dans mes succès, ça me donne les billes pour répondre à ce besoin mieux que quelqu'un d'autre? Ok, moi, je sais que j'ai l'énergie, je sais mobiliser les gens, je sais négocier, je peux organiser un événement. J'en avais fait quelques-uns en France avant de partir. Donc, ok, je suis capable de répondre à ce besoin. Il y a un modèle économique, oui, parce que je vais aller chercher des sponsors. La vente, c'est mon truc. Moi, c'est ça mon super pouvoir, en fait. Hein, c'est de savoir vendre. Et donc ça, c'est réuni. Et ensuite, quel est le contenu qui va permettre, qui va intéresser les gens? Tu as toujours un petit cercle quand tu vas quelque part. Même quand tu connais 3 personnes, La phrase clé, c'est, il y a deux questions clés dans la vie. C'est comment je peux t'aider ? Moi, c'est là toujours la première question que je pose à quelqu'un. Je vais te la poser d'ailleurs. Comment je peux t'aider ? De quoi tu as besoin ? Et après, est-ce que tu pourrais me présenter quelqu'un qui serait intéressé par ce que je fais ? Ça, c'est magique. Parce que chaque personne que tu rencontres, bah, tu n'es pas à l'abri que tu peux lui rendre service. C'est quand même à ça qu'on sert. Hein. Rappelle le petit tabouret. Et puis après, c'est est-ce que tu peux me présenter ? Ah, mais oui, bien sûr, tu devrais contacter telle personne. Donc, c'est la sérendipité, en fait.
Ouais,
tu tires ton fil.
Ouais.
Et de 10 personnes, tu passes à 100, tu passes à... Et après, tu fais du tam-tam, quoi.
Donc, comment je peux t'aider ? Est-ce que tu peux me présenter à quelqu'un ?
Ouais, voilà, c'est ça.
Notez-le.
J'aime bien ça.
Notez-le pour celles et ceux qui nous écoutent.
Ouais.
Aux États-Unis, tu rencontres de gros dirigeants.
Ouais.
Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans leur approche par rapport à ce que tu avais vu en France ?
Alors, plein de trucs. La première, c'est qu'ils sont beaucoup plus accessibles que les Français. Je ne sais pas s'ils t'envoient un message sur LinkedIn à un patron du CAC 40, mais jamais de la vie, il va te répondre. Alors, si c'est votre cas, dites-moi, hein, parce que moi, je n'ai jamais réussi. D'abord, ce n'est pas eux, en général, qui... Donc, ils répondent, ils t'accordent un rendez-vous, alors peut-être 5 minutes, mais tu as ta fenêtre de tir de 5 minutes, et là, tu découvres que quand tu es contraint par le temps, tu es capable de faire des miracles. Tu vois, c'est pas... Donc, j'ai découvert les réunions très, très courtes et très efficaces. Qu'est-ce que je peux dire en 5 minutes ? Ça suffit, en fait, hein, pour obtenir ce que j'ai envie d'obtenir. Donc, il faut être très au clair sur ce que tu veux obtenir. Mais donc, j'ai découvert qu'ils étaient disponibles, qu'ils t'accordaient du temps, qu'ils étaient... C'est très transactionnel, les relations aux États-Unis. Hein. C'est tellement cher que tu n'as pas le temps de savoir comment tu vas. On s'en fout, quoi. C'est pas qu'on s'en fout, mais on n'a pas le temps.
Ouais.
Et donc, c'est... J'ai découvert que... Si tu veux parler à un grand patron aux États-Unis, bah déjà, tu lui envoies un message sur LinkedIn. Ce n'est pas à l'abri que ça marche. Et que quand tu as tes 5 minutes, mais c'est comme avec un prospect, il hein, faut être très au clair sur ce que tu veux lui demander. Moi, je voulais leur demander deux choses. Je voulais leur demander, je voulais comprendre la clé. Qu'est-ce qui fait qu'une boîte traditionnelle se transforme plus vite qu'une autre ? Donc, j'avais prévu trois petites questions très claires à poser. Et après, je voulais qu'ils viennent intervenir à mon forum, le Win Forum. Donc, je savais exactement ce que je voulais d'eux. Et puis surtout, avant l'entretien de 5 minutes, je m'étais préparée pendant 2 jours. Quoi.
Okay.
J'étais incollable sur chaque personne que je rencontre. Mais c'est pareil aujourd'hui.
Ouais.
Toi, j'imagine, quand tu rencontres un prospect, mais tu le connais par cœur. Mmh. Il faut jamais aller à aucun rendez-vous sans préparation. Ça, c'est la faute du débutant. Je suis hyper préparée.
Donc, préparation, ensuite, j'imagine, elevator pitch ou équivalent.
Ouais, c'est ça.
Et puis, t'anticipes. Et il y a aussi un point, je t'enlève peut-être les mots de la bouche ou contredis-moi si je me trompe, mais le fait est qu'en connaissant la personne que tu as en face de toi, tu vas te concentrer sur son avantage, son intérêt, pourquoi est-ce qu'elle doit t'écouter, ouais. Et pas uniquement se concentrer sur soi, son besoin.
Ah, bien sûr. Ouais. En fait, la clé, mais ça, tu le sais, hein, c'est que c'est à 10 secondes.
Ouais.
Pour lui parler de quelque chose qui vous lie, qui te lie à l'autre. C'est, tu as 10 secondes, tu ne te connectes pas avec la tête en 10 secondes, tu te connectes avec le cœur. Et si, par exemple, je découvre que toi, je ne sais pas, tu adores la course à pied, tu adores le vin, tu adores les pâtisseries, tu adores... en fait, je me fais fort de trouver quelque chose que la personne en face de moi adore, ouais. Indépendamment de son boulot, et c'est de ça dont on parle tout de suite. Mmh. Ça peut être une personne qu'on a en commun, mais c'est trivial ce que je te dis là, et tous les vendeurs le savent, mais tu as 10 secondes pour te connecter. Ouais. Et ça, c'est Eric Chemouny qui m'a appris ça. C'est un des plus grands vendeurs que je connaisse. C'est le patron du retail chez Google. Et c'est mon gourou de la vente. Et c'est lui qui me dit ça. On n'achète qu'à des gens qui nous ressemblent. Tu veux me vendre quelque chose, il faut que tu me ressembles. Donc, tout de suite, tu me connectes. Donc, en 5, alors en plus, ça au début, je ne le savais pas hein, quand je parlais avec mes patrons. Hein, je me suis croûtée plein de fois. Hein. En plus, en anglais, c'est là que tu te rends compte qu'on n'apprend pas tant que ça l'anglais en France. What do you sell? Ah, donc, tu apprends à créer une émotion, un lien émotionnel tout de suite. Et après, tu apprends à formuler en une phrase qui fait 6 mots, ce que tu vends. Mmh. Bien sûr, comme tu disais, pas pour décrire ce que tu fais, mais pour le bénéfice que tu apportes.
Complètement.
J'adore cet exercice. J'adore, tu sais, quand les gens viennent me présenter, comme toi, j'imagine, enfin, plein de gens viennent me pitcher ce qu'ils font, et j'essaye, quand ils me parlent, de reformuler en une phrase. C'est comme si j'étais traductrice, en fait. J'essaie de reformuler en une phrase de 6 mots, enfin, le plus court possible, ce qu'ils font. pour que ça soit plus percutant. Ouais. C'est ce que je fais chez Envie, d'ailleurs.
Très bon exercice. On va en parler d'Envie, justement. Avant ça, tu parles là ici de Eric Cimoni, par exemple, qui était comme un gourou, pour reprendre tes termes, de la vente. Tu as eu plusieurs mentors, gourous dans ton parcours. Si oui, est-ce que tu veux en citer quelques-uns?
Oui, bien sûr.
Et surtout, à quel point ça t'a aidé au fur et à mesure des étapes de celle-ci?
Super. Alors, je ne vais pas parler des gourous d'habitude parce qu'on les connaît par cœur, mais je vais parler de mes... J'en ai toujours. Hein. J'ai une gourou de l'IA qui s'appelle Marjolaine Grondin, que tu connais peut-être. C'est une entrepreneure, une jeune entrepreneure qui avait créé il y a quelques années un site, enfin une plateforme pour les étudiants qui s'appelait Jam, qu'elle a revendue l'année dernière. Et Marjolaine, c'est elle qui m'a tout appris sur l'IA. Quoi. Elle est super forte. Donc, c'est, oui, c'est mon gourou, tu vois. Tu sais, quand on pense à gourou, on pense toujours à un vieux sage. Non, moi, j'aime bien le reverse gourouing. Donc, il y a elle. Il y a Eric sur la vente. Sur l'audace au féminin, je dirais Virginie Morgon, qui est une amie et qui était la patronne de Razéo. Et c'est la reine de la finance, qui fait des private equity avec des milliards à n'en plus finir et qui est vraiment très, très sharp. Et qui assume sa féminité tout en étant une sacrée businesswoman. Donc voilà, ça c'est pour t'en citer trois.
Et surtout, dans quelle mesure le fait d'avoir eu mentor, gourou, etc., ça t'a aidé? Pourquoi je te pose cette question? J'aimerais vraiment que les auditeurs prennent conscience de la valeur que ça peut avoir, que d'avoir des gens qui ont déjà fait une partie du chemin qu'on veut faire et qui vont finalement t'offrir des shortcuts. Et t'offrir du temps, de l'expérience.
Ben, en fait, la chose la plus précieuse, c'est le temps. Donc, si tu peux éviter de réinventer la roue, tu vois, si on peut t'éviter, c'est aussi pour ça que j'ai investi dans ton entreprise et qu'aujourd'hui, je te transmets plein de choses à beaucoup d'indépendants, c'est que on va à l'essentiel parce que même si ce que tu vends est très pertinent par rapport aux besoins de ta cible, entre le premier contact que tu as et le moment où tu vas avoir l'argent sur ton compte, il se passe un sacré paquet de temps, quoi. Donc, si moi, je peux t'aider à être plus efficace à un moment, tu vois, parce que je vais te donner les bons contacts, c'est important, ça, tu
Bien
vois.
Bien sûr.
S'il y a des contacts que tu... Étant donné qu'on n'est pas aux États-Unis et que tes cibles, elles ne répondent pas en 5 minutes sur LinkedIn, si jamais tu contactes quelqu'un en disant « je vous appelle de la part de telle personne », ça marche mieux, évidemment. Donc, pour avoir les bons contacts, pour éviter les erreurs sur, je ne sais pas moi, la définition de ton offre, le fait qu'elle ne soit pas singulière, sur ton pricing, sur ton modèle économique, sur ta stratégie commerciale, sur plein de sujets, tu as besoin de l'expérience de gens qui l'ont fait avant et qui se sont plantés, d'ailleurs. Donc, ça te fait gagner du temps. Et puis, tu te poses moins de questions, en fait. Tu ne te poses pas de questions parce que tu sais qu'ils sont là pour toi. Et que tu pourras toujours demander leur avis en cas de faux pas et retomber sur tes pattes. Donc, avoir un entourage. Mais vraiment, c'est la clé, ça. Hein. C'est un entourage. Les personnes qui te guident autour de toi. Il n'en faut pas des tonnes. Hein. Il t'en faut peut-être un ou deux, j'en sais rien. Plus tous les gens qui t'aiment. Mais c'est sûr que tu te sens... ça ne t'empêche pas d'échouer. Ça ne t'empêche pas les galères, les épreuves. C'est comme dans la vie. Hein. Mais en revanche, tu les traverses mieux.
Complètement. Pour continuer dans le parcours, tu as également été présidente de la French Tech à New York.
Ouais.
C'est donc une communauté qui représentait plus de 300 startups. Quel était ton rôle concrètement dans ce projet?
C'est drôle. La French Tech New York, c'était une histoire de copains, en fait. Hein. Tu sais, tu fais tout de façon bénévole. Ça a l'air d'être hyper organisé. C'est un bazar pas possible, en fait. Okay. Tu vois, donc en fait, c'est plus que t'es juste le référent local. Ouais. Que quand des Français arrivent à New York et qu'ils ont besoin de rencontrer des investisseurs, des pairs, savoir les événements où il faut aller, les trucs à faire et pas faire, c'est à toi qui demande et toi, tu redispatches. Donc, t'es vraiment là comme un guide, tu vois. T'es une carte routière, quoi. Et puis après, il y a des événements qui fédèrent les gens. Parce que pareil, quand t'es loin de tes bases, tu te sens quand même seul. Hein. T'as pas ta famille, t'as pas les tiens. C'est quand même un tout nouveau monde, l'Amérique. Et donc, tu as besoin de te retrouver avec des gens qui te ressemblent. Donc voilà, c'est ça, c'est assez simple. Hein. C'est très chronophage, ça rapporte rien. Tu fais juste de très belles rencontres. Moi, c'est ça que j'ai gardé, tu vois.
Et pourquoi tu t'es lancée dans cette aventure?
Qu'est-ce Mais je ne sais plus, dis donc. Pendant que tu me demandes, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Je ne sais plus. Quelqu'un m'a dit, oh, une personne veut le faire, tu veux y aller? Bon, allez, OK.
OK. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as continué à le faire? Parce que tu l'as quand même fait un certain...
Oui, mais après, je suis partie, c'était juste après que Covid est arrivé, providentiellement. Mais enfin, voilà, je trouve que c'est un très beau label, mais c'était quand même un sacré bazar, quoi.
Et ensuite, quand du coup, tu prends la décision de revenir en France, quand tu reviens en France dans tes valises, qu'est-ce que tu ramènes des États-Unis en termes de vision, de mindset, de compétences, de mécanismes peut-être, d'habitudes, qu'on n'a pas forcément ici pour continuer à développer tes entreprises et même au-delà, impacter, contribuer, rayonner sur d'autres entrepreneurs.
Ouais, c'est une bonne question ça. Hein. Qu'est-ce que je ramène dans mes valises? Déjà, plein d'audace, tu vois. Quand je regarde ce que j'ai fait là-bas aux États-Unis, outre le fait d'avoir contacté les patrons de Walmart, Best Buy, Target, d'avoir fait un dîner avec Serena Williams, de donner des cours à Harvard, j'ai aussi fait le marathon de New York. Enfin, tu vois, je regarde et je me dis waouh, ben quand même, c'est pas rien. Ouais. Tu vois, même si j'en tire aucune fierté, hein, j'ai pas de vanité en fait, mais je me dis juste, bah, I did it, quoi, c'est bien. Donc je me sens forte de cette audace. Et je vois les choses plus grand, je pense, en XXL. Tu vois, t'es dans un marché qui est 15 fois grand comme le tien pendant 5 ans, tu vois les choses plus grand. Et puis, donc, je reviens avec ça. L'envie de faire, tu vois, de me dire toute cette expertise, cette expérience que j'ai gagnée, j'ai envie de la mettre au service de mon pays. Je reviens patriote, en fait. Non, je reviens en ayant envie de faire des choses en France. Ouais.
D'accord. Parlons maintenant plus de vision et également de philosophie entrepreneuriale. Tu as notamment siégé au board de nombreuses entreprises. On a cité tout à l'heure Renault. Comment ça se passe? Comment ça marche d'être dans un board d'une entreprise comme Renault? Dans quelle démarche dynamique tu intègres ce board? C'était quoi l'enjeu, le challenge, la mission à ce moment-là?
C'est dingue. C'est une histoire de dingue, tu vois, parce que je découvre que c'est un poste extrêmement brigué. Enfin, c'est très désirable d'être administrateur d'une boîte du CAC 40, surtout enfin, comme un fleuron de l'industrie française qui est Renault. Donc, je me retrouve là par hasard. Enfin, j'ai rien fait pour y aller. Tu vois, on m'a dit, venez. Je pensais que c'était une blague, d'ailleurs. En plus, je ne conduis pas. Dieu merci pour l'humanité, je ne conduis pas. Donc, je me dis, c'est quelqu'un qui me fait une blague, tu vois. Bord de Renault, c'est pas... Et donc, j'aime bien. Je ne sais pas trop en quoi ça va consister, mais j'aime bien le défi. Donc, je me dis, je vais voir ce que je peux apporter. Moi, je ne suis pas du sérail. Je ne connais pas trop le fonctionnement des corporates. Je suis une femme libre, entrepreneur du digital, innovation, e-commerce. Il y a forcément quelque chose, modestement, que je peux apporter dans le regard, quoi. Donc, j'y vais. Tu vois, j'ai pas de syndrome de l'imposteur parce que je me dis, bah, si on m'a choisi, bah, voilà, c'est tombé sur moi. Je vais essayer d'être à la hauteur... de la tâche qui m'est confiée, mais déjà, je vais essayer de comprendre ce qu'on attend de moi. Donc, j'ai pas eu de formation à cela. Donc, au début, ce qui est difficile, c'est que quand t'es entrepreneur, t'es doueur, t'es dans l'action, bah là, c'est pas le cas. Hein. On te demande pas d'être dans l'action. T'es même pas consultant, t'es pas conseil. C'est vraiment un statut différent. T'es une instance de gouvernance qui est un peu le sparring partners du board. Tu dois faire contrepoids, tu dois challenger, tu dois être un peu le poil à gratter. Tu vois, donc tu fais de la maïeutique, en fait. Donc ça, c'est tout nouveau. Hein. Moi, je n'avais jamais fait avant. Donc, je me retrouve dans ce board avec des gens un peu plus âgés que moi, qui ont tous des CV de dingue. J'observe. J'adore. Ah. Et je me rends compte qu'il y a vraiment deux mondes, hein, que les entrepreneurs et les grands groupes, c'est deux mondes différents.
C'est quoi les grandes différences que tu as identifiées ?
Ben, y a des codes, tu vois, c'est comme dans toute organisation, il y a des codes de fonctionnement. on adresse, enfin tout est très, très normé, très codifié, très réglé, on parle de tels sujets, d'autres, on ne prend pas la parole comme ça vient, enfin c'est... En fait, je découvre que une entreprise qui a 150 ans, qui a des clients, qui s'est construite, tu la transformes pas comme ça, quoi. Mm. Tu vois, moi qui m'occupais de transformation numérique pendant des années, ouais. J'arrive au cœur du réacteur et je me rends compte que, en fait, c'est il faut d'abord comprendre les codes et les règles de fonctionnement pour pouvoir un peu les dévier. Tu vois, donc ça, c'est une belle leçon d'humilité, en fait, d'arriver là. Et puis, je commence, du coup, à rencontrer plein de monde pour comprendre quel est ton métier, comment tu l'exerces, quelles sont tes contraintes. Tu vois, je continue à faire ma petite enquête, en fait. Je passe ma vie à faire des enquêtes, je pense.
D'accord.
Et pour bien comprendre ce qui se passe, je comprends aussi que, tu vois, il y a des fantasmes. On se dit, une entreprise qui veut se transformer, il faut qu'elle, évidemment, qu'elle transforme son core business, mais qu'elle aille aussi sur des business adjacents, parce que c'est là que sont les gisements de croissance. Ça, c'est facile à dire, quoi. Mais à faire, comment tu fais ? Tu formes les gens à d'autres talents, tu fais de l'acquisition, enfin de la croissance externe. En fait, je comprends la complexité d'un grand groupe. Forcément, j'y avais jamais mis les pieds. Je comprends que avoir une legacy, c'est à la fois une très grande force, mais c'est aussi un sacré boulet parce que tu peux, contrairement à nous, amis entrepreneurs, où on est plus agile, on peut décider le matin, on change de cap. Waouh, là, t'embarques quand même beaucoup de gens et t'as une énorme responsabilité, quoi. Et puis il y a des règles de fonctionnement entre l'État, les partenaires sociaux. Enfin. Donc j'ai compris, tu vois, ça va faire 8 ans. J'ai compris au fil du temps comment fonctionne une entreprise. Et après, j'ai vu à l'œuvre un très grand capitaine d'industrie, Luca de Meo, qui est quand même qui a récupéré une entreprise qui n'était pas dans le meilleur état, hein, Renault, et qui a réussi en quelques années à en faire une boîte qui repart. Mais sur des règles, en revanche, qui sont proches de ce que l'on fait, nous, entrepreneurs. C'est-à-dire que quand l'entreprise ne va pas, tu commences par réduire les coûts, d'accord ? Ensuite, tu regardes dans ton offre qu'est-ce qui ne va pas. Là, il a changé tout le line-up des produits et des voitures. Tu vois, les Renault qui sortent aujourd'hui, qui sont absolument magnifiques. Et puis, en fait, donc, tu changes tous les paramètres et tu t'entoures de doueurs. Il a un vrai esprit entrepreneur, cet homme-là.
C'est drôle parce que tu t'en étonnes presque. Alors que dans la vision de la plupart des gens, finalement, tu te dis, c'est normal. Au contraire, ça doit être un super entrepreneur, etc., etc. Chose qui est le cas comme tu l'évoques. Ouais. Hein. Mais c'est assez fou, justement, la grande différence entre ce côté très agile, où tu es dans ton petit bateau hors bord et tu fonces, peux avancer comme tu veux. Et là, tu as un paquebot énorme où... tu dois faire 12 tours de volant pour pouvoir bouger, dériver de 12 cm.
Bien sûr. Mais ce qui fait bouger le permafrost, c'est le mindset. C'est le mindset du patron qui est vraiment entrepreneurial. C'est un doueur, il prend des risques, il ose. Et puis, il arrive à l'injecter à un groupe de lieutenants et de super managers et de managers intermédiaires. La clé, c'est d'injecter le mindset entrepreneurial dans ton entreprise. Et quand je dis entrepreneurial, je pense de vendeur. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de similitudes entre les vendeurs et les entrepreneurs. Et donc, toute la clé, tu as un capitaine qui a une belle vision, il sait où il va. Bon, après, il y a des investissements à faire, sauf que là, on est quand même en cash restreint. Hein, et pour les prochaines années, ça va être encore plus le cas. Mais tu as une belle vision, tu as un peu de cash à investir et tu t'entoures de gens qui sont des doueurs, donc chez qui tu as réveillé la capacité d'action. Donc ça se fait pas du jour au lendemain, hein, mais moi ça c'est ma mission aussi. En plus de dans ma nouvelle boîte, tu vois, de faire grandir des indépendants qui marchent, c'est comment je vais réussir à transmettre cette niaque entrepreneuriale dans des grandes entreprises pour qu'elles réussissent cette transformation. Je découvre que ça marche.
Je rebondis sur un sujet qui est la vente. Justement, tu dis transmettre la vente. Tu disais tout à l'heure que ta zone de génie, c'est vendre.
J'ai pas dit génie, hein, doucement.
Ah oui.
Je sais pas, non, mais
il me semble que tu as cité ça.
Non, ah bon, zone de confort, peut-être.
Non, zone de génie.
J'ai dit génie.
Non, zone de génie.
Ah bah pardon, hein, c'est très immodeste.
C'est vrai. Ah, moi, je pense pas, parce que tous les éléments que tu as évoqués démontrent que tu sais soit vendre une idée, soit vendre un projet, soit vendre un concept, soit te vendre en tant que personne, et que finalement, tu mets sous la coupe de la chance ou du hasard des éléments qui sont passés dans ton parcours, mais qui ne viennent pas réellement par hasard. C'est une succession d'éléments qui te mènent à quelque chose. Et c'est lié à la vente, à la base.
Ah ouais.
Beaucoup d'entrepreneurs et même d'indépendants, qui est ta nouvelle mission justement avec Envie, ont cette image un peu galvaudée de la vente, parfois même des blocages liés à la vente. Moi, je suis comme toi. J'adore vendre, surtout quand tu as un produit exceptionnel. C'est limite une mission. C'est y a pas d'excuse qui t'empêche de vendre à partir du moment où tu as envie de répondre à un besoin et d'aider. Qu'est-ce que tu dirais à des entrepreneurs qui ont justement ce blocage lié à la vente pour les débloquer et les refamiliariser, on va dire, à cette compétence qui est juste dingue.
Ouais, t'as raison. C'est un vrai sujet, ça. Hein. Les gens qui disent, moi, j'aime pas vendre. Mais t'aimes bien faire du chiffre d'affaires, t'aimes bien te payer, tu vois, t'aimes bien satisfaire tes clients. Mais alors, tu aimes vendre. Non, mais c'est drôle comme il y a cette réticence avec la vente en France.
C'est dû à quoi, selon toi ?
C'est pas noble, c'est pas enseigné dans les écoles, c'est, je sais pas, c'est culturel, ça a toujours été comme ça. On a toujours plus valorisé la finance ou le marketing plutôt que la vente, alors que c'est vraiment le nerf de la guerre.
Mmh. Et comment se refamiliariser avec ça ?
Mais tu as absolument raison de dire que quand ce que tu vends, tu es convaincu que ça répond vraiment à un besoin, que tu y réponds mieux que quelqu'un d'autre et que tu vas apporter un bénéfice à la personne à qui tu vas vendre ce que tu fais. Moi, avant toute réunion en visio ou physique avec quelqu'un à qui j'ai un truc à vendre, je me pose toute seule et je me redis dans ma tête, c'est génial ce que tu fais. C'est vraiment, tu vois, je me refais l'histoire. Je me dis, les gens ont besoin de toi. Si jamais tu arrives à leur vendre, ça va leur apporter ça, ça et ça. Je me fais le pitch à moi-même, en fait, tu vois. Et j'aborde l'échange en me disant, c'est vraiment, je viens pas te prendre ton argent. Je viens t'apporter une solution. Et j'y crois vraiment parce que je l'ai beaucoup bossé, tu vois. Mmh. Après, je viens, avant toute chose, je viens pour écouter le besoin. Parce que, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui arrive. Oh, ça, c'est un truc sur LinkedIn. Ne le faites pas. Hein. Des gens qui t'envoient par Wallaxy ou autre, toi, des messages automatiques. Ouais. En plus, ça se détecte à 10 000 km.
Impersonnel au possible.
Et voilà, cher. En plus, en général, parfois, on n'arrive pas à mettre au féminin, donc ça foire tout. Mais, et on te dit, tu as besoin de ça. Eh bien, moi, j'ai la réponse. Prends rendez-vous avec moi. Mais déjà, d'où tu sais que j'ai besoin de ça ? Tu n'en sais rien, demande-moi. Et puis, pourquoi je prendrais rendez-vous ? C'est toi qui as besoin de me voir, tu vois. En fait, c'est maladroit, tu vois. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand tu rencontres quelqu'un, c'est de quoi tu as besoin ?
Ouais.
Comment je peux t'aider ?
Ouais.
C'est demande-moi, tu vois. Et donc ce que j'aime, c'est souviens-toi que ce que tu fais, ce que tu vends, c'est sérieux, c'est du solide. Tu as tout donné, c'est ta compétence, tu es à ta place. Et en plus, t'aimes bien ça, parce que la notion de plaisir, il ne faut pas qu'elle soit trop loin. Et puis ensuite, quand je suis confrontée à un prospect, mais c'est sûrement ce que toi, tu fais, c'est dis-moi, moi, mes clients, ils ont besoin de ça. Et toi aussi, peut-être, tu vois. Et c'est comme ça que tu commences, t'écoutes.
Complètement. T'évoques un point intéressant avec l'exemple de Wallaxy, par exemple, où on va automatiser des contacts, etc. On est dans un monde où aujourd'hui on parle d'IA, on parle d'automatisation, on en perd de plus en plus ce contact direct humain. Pour ceux qui nous écoutent, et je sais qu'en plus c'est un sujet du moment, l'acquisition, la conversion pour les indépendants, etc., avec ce que vous lancez avec Envie. Comment trouver ce juste équilibre et arbitrer entre je dois réussir avec le peu de ressources dont je dispose parce que je suis seul dans mon business, à contacter et solliciter un maximum de prospects, mais en même temps, j'ai conscience que l'ultra-personnalisation, le fait de vraiment m'intéresser à mon interlocuteur et son besoin, est mon meilleur atout pour pouvoir me différencier.
Ouais. Alors, je vais juste, je n'ai pas théorisé le sujet, mais je vais te donner deux exemples de ce que moi, je fais pour trouver cet équilibre-là.
Volontiers.
Entre le digital et puis le fait de l'humain, quoi, finalement. Oui. Moi, toutes les formations qu'on fait aujourd'hui chez Envie, c'est tout se fait en ligne. Donc, effectivement, on ne voit pas les gens, quoi. Et pour aller les chercher, pareil, on fait de l'acquisition, tout est en ligne. Mais dès qu'un contact est établi et que quelqu'un est prospect, chaud ou client, en fait, on lui envoie une carte postale écrite à la main.
Par la poste.
Moi et mes associés, tu vois, avec une petite photo sympa, un petit mot sympa.
Donc, à la main.
Ouais.
Okay.
Tu vois, donc ça, c'est dans un monde où tout est digital, c'est une marque d'attention qui est différenciante.
Bien sûr.
Et c'est inattendu. Donc ça, c'est quelque chose que l'on fait pour recréer du lien. En fait, le digital, c'est juste un premier moyen d'établir de la connexion. Mmh. Donc après, on essaie de te témoigner de la considération. Bon, on a ça chevillé au corps, hein, les gens, on les aime, c'est sûr, on ne fait pas semblant. Ouais. Mais donc, on t'envoie une petite carte. Et puis la deuxième chose, c'est que depuis 2 ans, on fait un tour de France. On va au contact des indépendants, on a créé le Grand Prix des indépendants, on va dans les villes, on fait des soirées, on récompense les gens, ils viennent pitcher sur scène, on crée du lien, et ça fait du bien. Donc, tu vois, c'est deux façons. Après, chacun va trouver la sienne. Hein. Ouais. Mais on n'est pas ni que digital, ni que, je ne sais pas, analogique. On est les deux, quoi. On est dans les deux mondes. Donc, comment toi, dans ton business, quand tu as établi un premier contact avec quelqu'un, tu vas pouvoir quand même témoigner de ton humanité, de ce qui nous lie au-delà du business aussi. Donc voilà, moi, c'est ma petite carte postale et les grands prix qui font la différence.
D'où te vient cet amour pour l'entrepreneuriat et pour les entrepreneurs en général ?
Je te dis, c'est le prix de ma liberté, je crois. J'y vois la façon d'exercer adéquatement avec mon tempérament, de vivre le travail. Le travail, je le vis aux commandes de ma boîte. Je préfère me planter pour moi que réussir pour quelqu'un d'autre. Enfin, j'aime bien réussir pour mes clients quand même. Mais tu vois, j'aime cette idée de liberté qui m'est très chère, mais comme à tous. Hein. Et puis, les entrepreneurs, il n'y a rien qui me touche autant que de voir quelqu'un qui se démène, qui croit en son projet, qui a envie d'apporter quelque chose. Je ne sais pas, we are family, quoi. Je me sens en famille, en fait.
Et tu as l'envie aussi, j'imagine, de démocratiser l'entrepreneuriat, de montrer que c'est possible. C'est pour ça que tu communiques beaucoup. Tu as également été jury de Qui vont être mon associé. C'est là la première fois que j'ai découvert.
C'est vrai. Hein.
Ouais, ouais. Et justement, là aussi, comment tu es arrivé jury de Qui vont être mon associé? Je crois que c'est la première saison.
Hein, oui, c'est ça.
Voilà. Donc, à
après,
ce moment-là.
J'ai créé ma boîte. j'ai relancé ma boîte.
Ok, donc, c'est pour ça que justement, ouais. Après, tu étais très occupée.
Ouais, tu m'étonnes.
À ce moment-là, c'est nouveau sur M6, à la télé. C'est quelque chose. Certes, il y a les influences américaines ou autres avec Shark Tank, mais en France, on parle peu d'entrepreneuriat, pas autant qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que tu te dis. Opportunité de dingue, j'ai envie de vivre cette aventure.
Bah parce que parce qu'il y a des copains dans l'aventure, donc tu te dis c'est sympa de passer du temps avec eux.
Bien sûr.
Et puis ensuite, parce que tu te dis, moi depuis des années, j'investis dans des boîtes, je démocratise l'entrepreneuriat, j'ai envie d'encourager ce mindset qui fait du bien quand même. Mmh. Donc pourquoi pas le faire à la télé et puis voir ce que ça donne.
Et là aussi, c'est le hasard ou tu vas créer l'opportunité ? Est-ce que c'est quand tu rentres au board, je reçois un message.
Oui, c'est ça. Les gens te disent, vous voulez venir et je pense que tout le monde avait dit non, sauf moi. Non, j'exagère, j'en sais rien. Mais ouais, j'ai envie de relever le défi, tu vois. Okay. Et c'est génial que d'encourager l'entrepreneuriat avec, tu vois, une audience aussi importante. Après, il faut que les projets dans lesquels tu investis correspondent aussi à ton savoir-faire. Et c'est là qu'il y avait un petit décalage. Moi, c'est que des projets télégéniques qui ne sont pas forcément dans mon champ d'expertise. Donc, ça n'avait pas un intérêt fou. Mais c'est... Donc, démocratiser l'entrepreneuriat, c'est plutôt donner à chacun la capacité d'avoir son indépendance économique. C'est ça, en fait, pour moi. Pas tellement être entrepreneur, ça veut dire que c'est juste je génère mes propres revenus. Quoi.
Complètement, complètement.
Ça, j'adore.
Tu évoques un point intéressant. Tu dis le deal flow était très télégénique et peut-être moins adapté au type de deal dans lesquels tu investis aujourd'hui. On en parlait dans un autre épisode du Déclic avec Eric Larchevêque, qui lui aussi avait ce même constat.
Ah ouais, mais lui, c'est un cumulard. Il en a fait plein. Il en fait 5, là.
Exactement.
La 5e saison arrive en janvier.
Et on avait le même sujet. Et il évoquait justement que la qualité des deals
augmentait de plus en plus,
année après année. Mm-hmm. Et ça devient de plus en plus des deals, on va dire, des deals type VC ou autres, qui sont...
Oh, la chance. Moi, j'ai essuyé les plâtres, en fait.
Mais c'est pas... au-delà d'essuyer les plâtres... Ce qui est intéressant à te constater, c'est que finalement, quand tu crées ce type d'émission, tu dois divertir. Donc, tu as obligatoirement un enjeu de choisir aussi le type de deal par rapport à l'audience à laquelle tu t'adresses. Mm-hmm. Mais vu que les deals deviennent de plus intéressants, ça évoque le marché qui évolue, la sophistication du marché qui évolue. Et c'est plutôt bon signe. Le challenge est donc plutôt réussi. Comment tu vois l'évolution de l'entrepreneuriat justement en France dans les années à venir, compte tenu du fait que tu fais partie de ces acteurs qui ont aussi envie d'aider à élever le niveau de l'entrepreneuriat, d'ouvrir les portes de l'entrepreneuriat, permettre aux indépendants de l'être réellement. Comment tu vois la suite des choses?
Je ne sais pas si le niveau s'élève. En tout cas, une chose est certaine, c'est que pour cette émission, le filtre à travers lequel il passe, tu vois, il décide de prendre telle ou telle entreprise pour la mettre sur le plateau, a changé. C'est vraiment, c'est plus probablement tant télégénique que des vrais business. Donc ça, c'est bien. C'est une question de choix, finalement. Donc ça, c'est indéniablement, ça a changé. Après, je pense qu'à force, c'est comme pour les enfants, à force de répétition, on s'améliore. Et que moi, aujourd'hui, le message que je martèle, c'est que le nerf de la guerre, c'est la vente, et qu'un entrepreneur qui veut réussir, il faut qu'il soit très bon en vente. Et donc, il sache exprimer sa proposition de valeur de façon ultra simple, en réponse à un besoin, qu'il travaille des choses. Donc, je pense que ce qui va faire améliorer le niveau, c'est la capacité... tu sais, c'était un chercheur en neurosciences qui disait ça. Il disait les caractéristiques d'un bon entrepreneur, au-delà d'avoir la motivation et les bonnes ressources, il y a cinq choses. C'est ta capacité à découvrir, donc à regarder. C'est ça, un entrepreneur, il a de grands yeux, il regarde les besoins. Ta capacité à percevoir, donc à sentir que ce que tu apportes, ça répond bien ou pas aux besoins de l'autre. C'est ta capacité à être orienté résultat, parce que c'est quand même pas de la poésie, c'est des mathématiques. Ta capacité de résilience, et le plus dur, c'est ta capacité à te remettre en question. Et en fait, il me semble que c'est un peu dans l'esprit « what you can be, what you see », ou enfin, je ne sais plus comment ça se dit en anglais, mais c'est à force de voir des entrepreneurs à la télé ou ailleurs qui réussissent, je pense que ça inspire et ça élève ta propre exigence, tu vois, et ça te rend capable davantage, toi-même, qui porte un projet, de découvrir, de percevoir, d'être résilient, etc. quoi.
Complètement.
Donc, l'exemplarité, elle est très importante.
Ouais. Comme on dit, chaque record est fait pour être battu.
Ouais, c'est bon, ça met jusqu'où ira-t-on ?
C'est ça. On a parlé d'envie, justement, mais on n'a pas expliqué ce que vous faites au quotidien. Tu peux nous en dire plus et surtout pourquoi tu lances ce projet il y a de ça maintenant 2 ans ?
C'est 2 ans, j'ai lancé en 2022, fin 2022, donc ça fait 2 ans. Je l'ai lancé parce que j'ai observé qu'il y avait de plus en plus de Françaises et de Français qui se mettaient à leur compte, qui voulaient être indépendants. Donc, pas la Startup Nation, pas les boîtes, les levées de fonds, ça c'est pour Eric, l'archevêque. mais plutôt, je suis à mon compte. Et j'ai regardé tout ce qui se faisait et je me suis dit, il n'y a pas d'école de vente pour les indépendants qui spécifiquement t'apprend, en tout cas à t'améliorer sur cette qualité-là. Peut-être que ça existait, mais en tout cas, je n'ai pas bien vu, mais je me suis dit, c'est ça que je veux faire. En plus, ça correspond à ce que je sais bien faire.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, on a créé cette école pour t'apprendre, pas tant à créer ta boîte ou à faire du copywriting, mais vraiment à être un vendeur, une vendeuse qui fait rentrer les clients.
Donc typiquement, je suis indépendant, j'ai déjà un produit, je sais ce que j'ai à vendre, mais je ne sais pas vendre, j'ai des blocages liés à la vente. Comment ça marche, comment ça se passe? Tu parles d'école. Moi, je vois école, j'étais pas bon à l'école.
Je devrais peut-être l'appeler accélérateur, non? Qu'est-ce que t'en penses? Accélérateur d'indépendants.
Ça dépend du positionnement, mais effectivement, ça paraît...
Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Vaut mieux dire école ou accélérateur?
Vous nous le direz en commentaire.
J'aimerais bien.
École ou
pas.
Accélérateur.
Aidez-moi, parce que je suis pas... Mais j'avais dit école parce que j'avais le sentiment que je te transmettais quelque chose de fort chez moi, donc la transmission, apprentissage, école, bon. Mais en fait, je ne me rappelle plus ce que tu me disais.
Comment ça marche?
Oui, en fait, il y a trois stades auxquels les gens qui viennent chez Envie, ils se demandent, ils ont juste envie, justement. Et ils valident avec nous que c'est une vraie envie.
D'accord.
Il y a ceux qui ont une idée. Et là, ils valident que cette idée... On peut en faire quelque chose de viable. Et puis après, il y a ceux qui se lancent et on construit avec eux jusqu'au premier client. Bon, il y a 4 stades, en fait. Et puis, il y a ceux qui décollent, qui sont déjà à leur compte depuis longtemps. Ça ne marche pas comme ils voudraient ou ils ont envie de faire un changement. Et donc, en fait, pour chacun de ces stades, on a des programmes qui sont adaptés, quoi, et qui sont en ligne, qui marchent apparemment. Donc, c'est chouette.
D'accord. Vous avez combien d'étudiants jusqu'ici en 2 ans?
Alors, on les appelle les talents et on en a 250.
OK.
On est en promo. Tu sais, tu fais des promos parce que c'est toujours le collectif. Hein. Il n'y a rien de meilleur que d'apprendre à plusieurs. Et donc là, on va attaquer la 8e promo. Et donc, ils sont de toute la France, de 25 à 77 ans, plutôt des femmes, étonnamment, d'accord. 70% de femmes.
Okay.
Parce que j'ai deux cofondatrices, donc peut-être qu'on se dit « Ah, oh, c'est un truc de fille, ça !» Alors que non. Hein. Mmh. Et puis, c'est tous les métiers, aussi bien, je ne sais pas, consultants, je sais pas, que ce soit en RSE, en IA, en transformation, que des coachs, que des artisans, des commerçants, des e-commerçants. En fait, c'est tous les business où tu génères ton propre chiffre d'affaires.
Mmh, bootstrap.
Ouais, et que tu dois, donc tu as juste besoin d'aller, tu ne veux pas lever des fonds, tu vas lever des clients.
Mmh, complètement.
Et c'est ça qu'on apprend chez Envie et ce qu'on apprend aussi, peut-être que tu as nulle part ailleurs, c'est la bonne énergie dont tu parles.
Ouais.
C'est que
on peut l'apprendre, ça
prends ouais, si tu prends du Barba Boost, en fait.
Okay.
Tous les lundis matin, à 9h, tu as une dose de Barba Boost, de 9h à 9h15.
Ok.
Je t'inviterai un Barba Boost.
Avec grand plaisir.
C'est un truc assez marrant, je t'en parle 2 secondes, c'est 15 minutes où on prend un sujet qui intéresse tous les entrepreneurs,
ouais.
De, je sais pas moi, inspirer confiance, se relever après un échec,
ouais.
Je sais pas, garder le cap.
Mm.
Moi, j'en parle en partageant des anecdotes. Et mon associée Charlotte, qui a une formation en histoire de l'art, elle l'illustre avec une œuvre d'art.
D'accord.
Donc, une photo, un tableau, une sculpture, du street art. Et donc, tu repars de là, tu t'es pris un petit coup de Barba Boost et tu gardes en tête ce tableau ou cette image pour toute la semaine.
OK. S'il y a 3 choses que ces 250 indépendants que vous accompagnez, que vous avez accompagnés, t'ont appris, basé sur leurs problématiques, leurs blocages, et que vous les aidez à justement outrepasser ces blocages pour pouvoir avancer.
Mmh.
Lesquelles sont-elles 3 points très concrets qui pourraient aider toutes celles et ceux qui nous écoutent, parce que
ouais.
Des indépendants, il y en a beaucoup ici.
OK, bah, super. Vous êtes les bienvenus. On les aide à ne plus être seuls, ça c'est sûr. Tellement important. Cette petite communauté d'entraide où tu n'as pas honte de dire que tu ne sais pas faire. Tu vois, il y a cette espèce de... C'est comme une safe place. Et donc, on est ensemble. Donc moi, ce que je découvre, c'est qu'ils sont contents de trouver cet entourage qui te fait du bien. Ils découvrent aussi qu'en fait, il ne faut plus penser idée, il faut penser besoin. On fait un vrai travail de formulation, quoi, de réexpliquer. C'est très difficile, hein. Comme on disait tout à l'heure, en une phrase très très courte, d'expliquer en quoi ce que tu vends, ça répond à un vrai besoin.
Mmh.
Et surtout, c'est toi la bonne personne pour y répondre. Et souvent, alors on casse pas les rêves des gens, mais souvent, au bout de 4 semaines, nos talents se rendent compte que c'était une super idée, mais c'est pas eux le bon porteur de projet.
Ouais.
Parce que ce qu'ils ont fait avant, leurs compétences, leur histoire, ben, ça suffira pas. À en faire une aventure ou sinon, bah, tu auras 80% de ta marge qui ira à des prestataires qui ne sont pas toi. Ça n'a aucun intérêt.
Bien sûr.
Donc, ça les rend plus lucides, tu vois. Mais ça n'enlève pas l'envie. Hein. Il y a toujours 1000 façons d'exprimer ton envie de faire. Et puis surtout, après, bah, c'est tous ces sujets. Parce que si tu veux que ça marche, hein, il n'y a pas de secret. Tu dois passer la moitié de ton temps à les vendre.
Complètement.
Ça ne viendra pas tout seul, okay. Hélas.
Tu évoquais tout à l'heure, justement, ces 6 mots pour réussir à exprimer ton,
ouais,
ton projet.
Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est bien. Et c'est très... Tu vois, il y a un de nos mentors. On a 100 de mentors qui sont des entrepreneurs à succès qui viennent prendre la parole et rencontrer nos talents. C'est Hugues Lebray qui avait créé, cofondé le compte Nickel. Tu sais, c'est cette banque qui s'ouvre dans les bureaux de tabac et qui disait, mais moi, j'ai reformulé mon offre 200 fois. Il dit, j'ai regardé, il y a 200 versions de ce qu'on a fait, quoi, avant que ça sorte. Tu vois, avant que ce soit exactement adapté. Et dans l'offre intrinsèquement et ouais. Dans sa formulation. Toi, ça rend humble et ça donne envie de se remettre au boulot, ça.
C'est pas anodin. Comment on fait, justement, pour ceux qui nous écoutent, ce travail de reformulation, d'une part, et après, tu vois, on le sait, l'entrepreneur est seul, c'est un des premiers points que tu as évoqués.
Mais maintenant, ils sont plus seuls avec Envie.
C'est
fini,
vrai.
Ça.
Il y a plein de choses.
C'est comme Capri.
Il y a Envie, il y a des communautés, il y a
oui,
des
after-work,
il y a plein
ouais.
de choses, mais fondamentalement, tu restes quand même seul une bonne partie de ton temps. Tu es face à ton bloc-notes, à ton ordinateur. Mmh. Tu te poses plein de questions. Tu regardes le plafond de ton bureau, de ta chambre.
Ça, c'est pas la, cette description-là, ça fait peur. Hein, ouais, mais ça ne marche pas comme ça.
Je sais, mais c'est souvent le quotidien de l'indépendant, de l'entrepreneur qui se lance, ouais, ou de la personne en reconversion professionnelle qui réfléchit à son idée et qui n'est pas encore lancée, qui a son offre, qui est en train de... dans ses balbutiements.
Ah ouais.
À quel moment, justement, on sait que c'est la bonne offre, on peut la lancer? Cela t'évoque 200 itérations différentes.
Oh ouais, mais...
C'est colossal.
Ouais.
Comment on identifie que c'est le bon moment, c'est la bonne? Dans cet exemple, je ne sais pas si il t'a expliqué comment il a fait ou si
tu as... Bah non, mais comment tu fais? Déjà, d'abord, tu oses sortir une première version.
Ouais.
Par exemple...
Donc, fait est mieux que parfait.
Bah voilà, ça, c'est sûr. Hein. Ouais. Tu fais et tu dis, voilà, les gars, voilà comment je présente mon offre. Qu'est-ce que t'en penses? N'aie pas peur de me dire que ça va pas. Donc, on a une grille, tu vois, on a sorti un Excel, c'est tout simple, où j'ai noté quelques points. Et je dis, voilà, quand tu vas pitcher ton offre à quelqu'un, tu prends cette grille, tu lui donnes ou tu lui envoies et tu lui dis, dis-moi en toute vérité, parle vrai, mon ami, dis-moi. Et est-ce que tu as compris ce que je te dis? Est-ce que tu trouves que c'est utile? Et tu le fais avec 1, 2, 10, 20, 50 personnes. Et tu écoutes les feedbacks. C'est fou comme quand on pitch son projet ou sa boîte, quand on est entrepreneur, on est obsédé par la nécessité de convaincre. Alors qu'en fait, il faudrait retourner sa pyramide des priorités, il faudrait juste écouter les feedbacks, tu vois. Même ceux qui grattent. Quoi. Bon, on m'a toujours dit, un client qui te critique, c'est un client qui t'aime encore. Non, mais... Donc, tu pitches peut-être, je dis client parce que je trouve que c'est intéressant de pitcher à des gens qui sont potentiellement dans ta cible.
Bien sûr. C'est même capital parce que sinon, le feedback, il n'est pas très pertinent.
Oui, c'est ça. C'est comme pour les prénoms des enfants, tout le monde a son avis. Mais là, c'est plutôt, dis-moi, toi qui potentiellement est dans ma cible, est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? La vérité, non, je n'ai pas compris. Tu vois? Et donc, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ou alors ce mot, il est tellement banal ou c'est tellement gazeux. Allez, mais tout ça, il faut le dire avec beaucoup, beaucoup de bonté parce que c'est fragile, un entrepreneur. On est fragile, on met tellement de nous que... Et moi, je suis consciente de ce trésor que c'est. Donc, on fait très attention à la façon dont on formule. Mais il ne faut pas être complaisant. C'est pas bien, c'est pas bien. Il faut une très, très grande exigence. Donc, comment on fait? On fait en faisant. Et donc, ce qui est génial chez Envie, c'est que tu as plein de lieux. On a par exemple le pitch des indépendants. Tous les mois, tu peux pitcher devant un entrepreneur connu. Donc, et pas pour lever des fonds, pour récupérer des feedbacks. Et tous les gens qui y assistent peuvent écouter les conseils d'Éric Larchevêque, de Nathalie Balla, de Céline Lazorte. C'est génial. C'est tellement précieux. Donc, il faut pitcher tous les jours à tout le monde.
Tu dis, un entrepreneur est fragile.
Ouais.
Tu peux nous en dire plus sur ce concept?
Ouais, c'est parce que l'audace, l'envie, c'est formidable, mais c'est tu donnes tellement de toi, tu dors tellement peu, tu prends quand même des risques financiers.
Bien sûr.
Que c'est il faut que la personne, comme on disait tout à l'heure, puisse aller puiser ce qui va la nourrir son énergie, mais non, moi, je trouve ça fragile parce que tu donnes tout de toi. Hein. Puis, tu n'as pas de filet de sécurité tellement... Tu n'as pas de salaire à la fin du mois. Donc, tu joues quand même... Tu joues beaucoup. Quoi.
Complètement. Je rebondis sur un point. Contredis-moi si je me trompe. J'ai l'impression que tout au long de ton parcours, tu as à chaque fois eu des associés. Et le fait de trouver justement des associés complémentaires, tu l'as dit aussi, hein, c'est la base même de trouver des bons associés. C'est absolument capital pour certains qui veulent se lancer. Mais en tout cas, c'est un accélérateur, c'est un cadeau. Ça peut être un poison aussi, si ce n'est pas les bons. Dans ton cas, j'ai l'impression que tu as trouvé à chaque fois les bons associés. Et c'est des questions que se posent beaucoup d'indépendants aussi pour oser se lancer.
En fait, dans le cas des indépendants, par définition, tu fais ton business en solo. Donc, tu n'as pas vraiment d'associés. En revanche, tu as un besoin crucial d'avoir un entourage donc, je disais, d'un mentor ou un guide, d'avoir des coéquipiers, tu vois, des gens que si toi, tu ne sais pas faire d'acquisition, tu ne sais pas faire un site, tu ne sais pas faire de DIA, qui dans ton entourage va pouvoir te donner, tu peux troquer en plus après tes talents, hein. Mais n'est pas la vanité de croire que tu sais tout faire, parce que ce n'est pas vrai. En revanche, identifie bien. Moi, j'aime bien faire cet exercice. Tu prends une feuille blanche et d'un côté, à gauche, tu écris toutes tes compétences, ce que tu sais bien faire. Et à droite, tu écris les compétences qui sont cruciales pour que ton projet marche. Et tu regardes ce qui est commun et ce que toi, tu ne couvres pas. Avec qui tu vas le faire? Qui peut t'aider?
Très bon exercice.
Tu vois, j'adore ça.
Ouais.
Ben, on le met dans le kit qu'on lance aujourd'hui, par exemple, tu sais.
Ok, super.
Ça, c'est un des exercices qu'on fait.
Un autre point sur lequel j'ai envie de rebondir, c'est la gestion du temps pour les indépendants.
Tout, ça, c'est sûr.
Comment on fait pour mieux gérer son temps, bien gérer son temps quand on est indépendant, qu'on doit tout faire? Parce qu'entrepreneur, c'est pas juste, t'as une zone de génie, t'as un talent. C'est d'ailleurs très bien choisi le mot talent pour ceux que vous accompagnez. Donc, t'as un talent. Exemple, tu sais très bien faire du tricot, c'est le premier truc qui me vient.
C'est bien ça, c'est parce que tu me regardes et ça me fait penser à tricot. Non, c'est...
t'as un talent, tu dois ensuite, tu veux le monétiser, tu dois tout apprendre. Alors, la vente, pour commencer, effectivement, tu l'as évoqué, mais plein d'autres choses.
Déjà, si t'as ton talent et la vente, t'es bien. Ouais. Va pas chercher plus loin. Déjà, commence par ça. Ouais. Tu vois. Donc, moi, mon conseil, c'est passe 50% de ton temps à la vente. Déjà, prends ton agenda. Première chose, si tu veux bien t'organiser, tu prends ton agenda et tu vas me noircir tous les jours. Alors, peut-être pas la moitié de ton temps parce que ça va être un énorme choc thermique si t'en as pas fait beaucoup, mais tu commences peut-être par une demi-heure par jour. Le lendemain, tu fais une heure, encore une heure, puis après, tu vas passer à deux heures. Tous les jours, tu t'enfermes dans une pièce, t'enlèves ton téléphone, tu gardes juste de quoi faire de la veille et tu te concentres comme un sportif de haut niveau, c'est ton entraînement. Tu fais de la vente. Il n'y a pas de secret, en fait. Tu ne fais pas de vente, tu n'auras pas de rendez-vous, tu n'as pas de rendez-vous, tu vois, tu n'auras pas de client. Enfin, c'est mathématique.
L'étape d'après, une fois que tu génères un certain chiffre d'affaires, c'est naturellement de vouloir commencer à structurer, automatiser, déléguer. Je ne sais pas si vous les accompagnez jusqu'ici. Mais en tout cas, un sujet qui est vraiment un point de douleur, un point de friction énorme pour la plupart des entrepreneurs, c'est le recrutement.
Ouais.
Tu l'as évoqué même au tout début par rapport déjà à ta première boîte. Tu avais des talents que tu as réussi à débaucher ou en tout cas, ils sont partis de grandes boîtes pour te rejoindre par rapport à ta vision. C'est un vrai talent. C'est aussi de la vente, d'ailleurs.
Ouais.
Comment on fait quand on est indépendant, seul, qu'on veut passer d'un statut d'indépendant à entrepreneur, qu'on veut structurer sa boîte pour pouvoir scaler, justement, et commencer à recruter des talents?
Déjà, si tu arrives là, mais bravo. Déjà, bravo, parce que c'est tellement rare, tu vois. J'entendais quand même une stat affligeante que sur les femmes en particulier, tu as 67% des femmes qui sont solopreneurs qui gagnent moins de 1500 euros par mois. Donc déjà, avant même de penser à recruter, tu vois, moi, mon rêve, ça serait qu'elle passe déjà de 1500 à 3000. Si je peux aider là-dessus, tu vois, en structurant les choses avec des choses très simples, déjà, ça serait déjà chouette. Sur la partie du recrutement, moi je crois beaucoup en fait à la flexibilité, hein. Quand tu vois les salaires chargés dans les boîtes, enfin moi je le vois chez nous, hein, c'est hallucinant. Moi je pense qu'on gagnerait à travailler entre pairs, entre freelance, tu vois. Identifie les besoins que tu as et regarde s'il y a des prestations que tu peux avec qui des gens de confiance et des bons. C'est ça qui est difficile en fait. Qui sont les bons autour de toi avec qui tu vas pouvoir bosser. Moi je crois vraiment qu'on gagne à travailler avec des freelances. Tu vois. Le fait d'avoir quelqu'un salarié, ça garantit absolument pas un taux d'engagement supérieur. C'est pas parce que t'es sur la payroll que t'es plus engagé. C'est pas vrai.
Complètement.
Donc commence peut-être par ça. Fais-toi un tatouage frugalité.
Ok. Tu parles justement de ces personnes qui génèrent 1500 euros par mois en moyenne. C'est vrai que c'est une majorité. On voit aujourd'hui.
C'est fou. Moi, ça me. C'est ma mission, ça, tu vois. Quand j'entends ce chiffre, j'ai vraiment envie de. Je sais que je suis à ma place avec envie. Si ma mission, c'est d'aider les gens qui sont à leur compte à gagner plus, alors là, vraiment, j'ai trouvé ma place. Quoi.
Ouais.
Je sais comment faire. Tu vois, je sais, et c'est tellement universel. Donc, si tu fais chaque petite chose que tu fixes, et pas tout seul dans ta chambre, comme tu disais, mais avec le regard bienveillant et critique d'une personne ou d'une communauté de pairs, mais tu vas vraiment progresser.
Voilà. Il est beau ce message parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on voit et tout ce qui nous entoure, on fantasme l'entrepreneuriat. On voit des gens réussir en claquant des doigts. On parle de milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros, millions d'euros assez rapidement, assez facilement. J'en suis un peu aussi un des acteurs, c'est-à-dire que même moi...
Mais ce n'est pas du tout bien, ça.
En interviewant des gens comme toi avec une si belle réussite, ouais. Ça met en lumière des belles réussites, mais on ne voit pas aussi déjà... sous l'iceberg, l'envers du décor, tout le travail qui a été fait. Et c'est pour ça que j'adore les formats longs comme ici. On va vraiment creuser et se rendre compte qu'en fait...
Tu m'avais dit que ça serait moins long, hein, t'avoues, non
t'as... C'est vrai. On est dans les temps encore.
D'accord,
on est dans
bon,
les temps.
Va.
J'ai les chronos. Creuser et justement voir que c'est un roller coaster, comme on l'a évoqué. Il y a des hauts, des bas, et tu l'as même dit, il y a plus de bas que de hauts. Mais aussi, il y a une énorme partie d'entrepreneurs qui malheureusement galère au quotidien.
C'est le lot commun en fait. C'est ce que je crois, c'est pas fantasmé. Les réseaux sociaux, c'est un sacré poison en fait. T'as toujours l'impression que c'est toi le couillon de service qui réussit pas quand tout le monde est là avec des réussites flamboyantes. Ouais, ouais. C'est pas vrai.
Surtout que l'algorithme est un peu traître parfois.
C'est faux, tout ça est faux. Et tu vois, ça c'est une des choses que j'ai vraiment aimé aux États-Unis. C'est dans l'éducation des enfants, la capacité à te dire une chose clé, si tu veux réussir, c'est ne te compare pas aux autres, ne te compare qu'à toi-même. Tu vois, ma fille qui était hyper forte en anglais quand on est partie, qui est devenue très mauvaise parce qu'elle avait que des Américains dans sa classe, donc elle était nulle en anglais. Et donc, elle était très vexée et son prof, en fait, un jour, elle arrive, elle avait eu 7, elle est passée à 10 sur 20, elle était hyper contente. Elle m'a dit « Maman, j'ai eu 10 sur 20 ». J'ai dit, ah bon, c'est bien ça. C'est pas très. C'est, je sais pas, moi. Elle me dit, si, maman, il m'a dit, parce qu'avant, j'avais 7. Et tu vois, il a dit, maintenant, t'as la moyenne, et bravo. Et elle était profondément heureuse d'avoir progressé.
Ouais.
Tu vois, elle se comparait avec elle-même. Et je trouve que c'est une belle leçon, ça, parce qu'au final, quand tu vois tous les entrepreneurs que les uns et les autres, on admire pour leur passé, ou leur histoire, ou leur réussite financière, ou je sais pas. En fait, on oublie une chose, c'est que sur la ligne de départ, on n'a pas tous les mêmes cailloux dans le sac à dos, tu vois. On ne part pas tous avec la même santé, on ne part pas tous avec la même quantité d'amour qui nous est donnée, on ne part pas tous avec, la même, je ne sais pas, les mêmes modèles autour de nous, la même énergie, tu vois. Donc, c'est normal. Et moi, j'adore cette idée que tu regardes le chemin que toi, tu as parcouru. Et tu te dis, souvent, hein, c'est le cas, j'en ai traversé des tempêtes, j'en ai passé des nuits blanches, j'ai vécu, c'est ça qui nous rassemble, hein. On a vécu des trucs tellement durs, et tu dis, je suis là, tu vois. Donc, peu importe ce que je peux lire ailleurs sur les réseaux, moi, je sais que j'ai fait mon chemin, et ça, c'est une source d'énorme fierté. Ça remplit ton réservoir de confiance quand tu regardes comme ça.
Complètement. Outre le fait, justement, de leur dire de ne pas se comparer aux autres, est-ce qu'il y aurait un autre conseil que tu aimerais partager aux indépendants qui font face à des difficultés, veulent s'en sortir, et déjà ont l'envie et l'audace de se lancer? C'est déjà une victoire. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais leur partager?
Si c'est ton histoire de faire ça, tu vois, si tu fais ta boîte pour les bonnes raisons, tu vois, tu sais pourquoi tu le fais et pourquoi, en deux mots. Voilà, tu te souviens, tu dis, je le fais, je sais que ça va être dur, je sais, mais c'est mon histoire et j'y vais. Déjà, si tu ne te racontes pas d'histoire sur pourquoi tu y vas, tu vois, alors entoure-toi de gens qui vont t'aider à aller plus loin. Tu ne feras rien tout seul, toute seule. Tu ne peux pas y arriver. Tu vois, qui t'ouvrent les yeux sur peut-être que là, tu as une cible qui n'a pas d'argent. Ah oui, ce n'est pas terrible. Ou peut-être que ta cible, elle a des besoins, mais toi, tu réponds au besoin numéro 15. C'est dommage parce qu'elle ne paye que pour les trois premiers. Est-ce que tu pourrais pas remonter un peu sur le podium, tu vois? En fait, c'est des choses simples. Mais quand tu l'entends de quelqu'un d'autre, ça t'aide peut-être à avoir plus de discernement sur ton business. Donc, entoure-toi de gens qui t'injectent de l'énergie, qui t'injectent de la confiance et qui te donnent ce recul pour pas te raconter d'histoire, quoi, sur ton business. Et puis, alors, le dernier conseil, en fait, c'est le seul que j'aurais dû donner, c'est passe du temps à vendre. Passe du temps à aller chercher tes clients. Ils ne viendront pas tout seuls, ils ne vont pas tomber du ciel. Donc, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour aller les chercher, tu vois? Est-ce que tu as une routine? Et si tu ne sais pas comment faire, tu es dans une communauté où tu dis aux autres, les gars, vous faites comment pour la vente? Qu'est-ce qui marche? Tu vois? Les gens ont tellement plus envie de t'aider que tu ne penses.
Ouais, c'est très vrai. Justement, pour revenir à ces entrepreneurs qui génèrent pour certains 1 500 par mois, voire moins, Souvent, bah, naturellement, ils ont besoin d'avoir un job à côté. Ils font donc leur projet indépendant en parallèle. Et j'en reviens à cet arbitrage entre le temps qu'on y passe, etc. Et d'autant plus ce questionnement que tu viens d'évoquer. Donc, c'est parfait, c'est extrêmement complémentaire. Parce que tu pourrais mettre, et j'aimerais ton avis là-dessus, mais en tout cas, c'est ma conviction, tu peux mettre toute l'énergie et le temps que tu veux sur la vente et être aussi bon que tu l'es en vente. Si derrière, comme tu l'as dit, tu t'adresses au besoin
Ah mais
numéro
c'est ça.
15,
Ah c'est mort.
c'est mort, on est
C'est
d'accord.
mort, quoi. Parce
Faut vraiment le
que...
mettre en lumière, ça.
Ouais, c'est pour ça que tu vois, nous, c'est ça que j'aime bien dans la pédagogie qu'on a chez nous, c'est que tu as deux parties, quoi. Tu as d'abord la première partie qui est on va réviser ton socle. On va bien regarder que tu te lances ou que tu existes déjà si tu as les fondamentaux solides, tu vois. Et on va stretcher ta cible, ton offre, ton modèle économique. Et une fois que ça, on se dit ouais. Ça, c'est du solide, ça, c'est du robuste. Alors, tu vas aller chercher des clients. Tu vois, l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Donc, il faut d'abord s'assurer qu'on a un socle bah, qui répond à un vrai besoin et qui s'adresse à des clients qui ont des sous. Tu vois, ça paraît trivial, mais on se pose tellement pas cette question-là. Et puis, ce que je vends, pourquoi je suis la bonne personne pour vendre?
C'est la base.
Ouais, et en fait. Il y a un gars ce week-end, il me présentait quelque chose de fascinant sur les eaux de pluie. Il était capable de les dépolluer pour en faire de l'eau potable. Et donc, d'un point de vue d'invention, ça avait l'air super, tu vois. Mais après, je disais, mais comment vous allez aller chercher? Qui va acheter ça? Enfin, à qui vous voulez vendre? Enfin, il était très, très focus sur son invention et il pouvait être fier, mais... Tu vois, à un moment, tu dézoomes. C'est pas un hobby, c'est une boîte. Donc, cette invention-là, tu vas la vendre à qui? Tu vas la vendre avec quel mot? Pour quel bénéfice? À quel prix? Et ça, c'était très, très loin de ses préoccupations. Il faut qu'on, tu vois, pense client et pas son produit. C'est
Complètement,
mieux, hein. Mais
complètement.
c'est tellement évident.
Ouais. J'ai une avant-dernière question pour toi. Pendant une grande partie de ta carrière, justement, tu vas dans des industries qui ont un levier de scalabilité juste énorme, qui plus est dans la tech, où il y a des vecteurs de croissance très élevés. Tu investis également dans beaucoup de startups, tu es du coup, une actrice également du monde de la startup, et donc avec un potentiel juste hors norme où on pense worldwide directement en général. Et aujourd'hui, du coup, avec Envie, tu aides les indépendants qui représentent une grande partie du poumon économique. Hein, finalement, juste avant les TPE, PME, il y a toutes ces personnes qui veulent se lancer et qui génèrent, pour reprendre le chiffre que tu as évoqué,
Ouais, très très peu de sous,
1500
quoi.
euros et tu veux les aider à ne serait-ce qu'aller chercher 3000 euros.
C'est ça. Donc là, tu es en train de me dire, tu es sur une cible qui n'a pas d'argent, Catherine. Attention.
Alors, ce n'est pas ma question, mais ma question, c'est est-ce qu'il y a un déclic ou un élément déclencheur, ou peu importe dans ta carrière, dans ton parcours, qui a fait que tu as pris ce choix de changer complètement de virage d'industrie? Parce qu'on est d'un côté sur quelque chose d'extrêmement scalable, où on veut changer le monde pratiquement, et de l'autre, où on est très rationnel, où on veut juste changer sa vie.
Alors, deux éléments de réponse. Je pense que la transformation du travail, c'est un aussi gros choc que la transformation numérique il y a 30 ans. Je pense que la façon dont on travaille, dont on voit le travail, la centralité qu'avait le travail dans nos vies, et c'est plus le cas aujourd'hui, ça va vraiment changer beaucoup de choses. Donc, le travail indépendant, c'est un phénomène de société, tu vois. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse. C'est peut-être une cure de jouvence. J'essaie de retrouver ce que j'avais il y a 30 ans. Ensuite, je cherche la scalabilité dans mon projet. Tu
D'accord.
vois, moi, je veux, il y a 10 millions d'indépendants. Tu parlais des slasheurs, les fameux qui ont deux métiers, il y en a 6 millions et puis un peu plus de 4 millions qui sont vraiment à leur compte.
Ouais.
Sur ces 10 millions-là, moi, je rêve que tous viennent s'abonner. Moi, je crois au système de l'abonnement. J'ai pas encore craqué le truc, hein. D'ailleurs, si vous pouvez m'aider, n'hésitez pas, hein. Moi, je cherche à trouver comment je vais faire payer 10 euros par mois ou 20 euros par mois à 10 millions de personnes. Tu vois? C'est une cible qui a peu d'argent, mais si tu as un panier moyen petit, alors c'est un business de volume. Et c'est ça qui va marcher, qui va faire de la scalabilité.
Tu veux impacter un maximum de personnes.
Ouais, c'est ça, j'ai envie d'impacter un maximum de personnes. Et pour ça, j'ai besoin de super bons en marketing digital, tu vois, en acquisition, en nurturing. Je ne sais pas si tu connais des gens comme ça,
Oh non, quand même.
des stagiaires, des alternants, des freelances, peu importe. Je cherche vraiment, vraiment. C'est très difficile, quoi. Donc, j'ai besoin d'aide là-dessus et je veux craquer. Je veux effectivement, tu as raison, je ferme les yeux, je me projette dans 10 ans. Ben, je sais pas, il y a 1 million de personnes qui sont passées par Envie, qui ont doublé leurs revenus. et qui vivent bien de leur activité et qui ont un équilibre de vie. Et ça me réjouit.
Merci pour cet échange.
Merci à toi.
J'ai une dernière question à te poser avant qu'on se quitte.
Je sens ça te réjouit, là, je sens que ça va être compliqué.
Non, c'est pas compliqué, tu le verras. Mais avant ça, comme à chaque fois, si vous avez eu autant de plaisir à regarder cet épisode que j'en ai eu à l'animer, bien faites-le nous savoir en partageant la vidéo, en la likant, en commentant, en nous donnant votre avis sur les questions qu'on vous a posées justement dans cet épisode. Et si vous étiez en train de nous écouter, eh bien mettez 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée sur laquelle vous étiez. Catherine, j'ai une question pour toi, celle que je pose à tous mes invités. Quel est le déclic qui a fait toute la différence dans ta vie, dans ta carrière, que tu n'as pas partagé aujourd'hui, que peut-être tu n'as jamais ou rarement partagé dans des interviews?
Le déclic.
Ça peut être une simple phrase, une citation, que ce soit positif, moins positif, peu importe. Tu as carte blanche pour le mot de la fin.
C'est le déclic de ma vie. C'est une phrase de Mère Teresa. Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. Bon, j'ai du boulot, hein, mais c'est mon mantra.
Merci Catherine.
Merci à toi.